Europe 1,
9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 19 de votre club de l'été, un club où la curiosité est l'entrée obligatoire, où les sourires sont fortement conseillés et les coups de cœur, notre boisson préférée. 2 heures en direct de 9h à 11h pour parler théâtre, cinéma, littérature, patrimoine et gastronomie. Et devinez quoi ? Eh bien, ce matin, nous parlerons théâtre, cinéma, littérature, patrimoine et gastronomie, avec sans doute un petit supplément d'âme, notamment parce que j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux êtres à part et qui comptent, Lise Pressac, experte tourisme et culture, et Olivier Pousse, notre expert en gastronomie. Salut les amis.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour, ma journée est faite. Merci Eva.
Vous avez digéré vos mezzés de hier.
Ah oui, faut dire qu'ils étaient très bons.
Et les poivrons aussi.
Gâtés, vos poivrons étaient incroyables.
Voilà. Je suis partie sans devoir hier soir, d'ailleurs. Oui,
vous n'avez rien fait.
J'ai un petit peu travaillé quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Lise, notre invité, il adore la Corse, le nord de la Corse notamment. On part donc ce matin pour...
Ben, la Corse du Nord. Quelle originalité, on va découvrir les tours génoises.
Ça a trop bien marché. Olivier, notre ami Modération sera avec nous ce matin parce que nous allons parler de...
De vin, bien sûr. Alors de vin de Corse, évidemment, mais aussi de vin de Bourgogne parce que je crois que notre invité a quelques acquaintances avec la Bourgogne.
Donc on parlera
aussi de vin de Bourgogne. Et je vous fais un paquet cadeau parce que je vais vous parler aussi des escargots de Bourgogne. Ce sera notre vrai faux du jour.
Ouais.
Est-ce que les escargots de Bourgogne sont une appellation d'origine protégée ?
Bon, ben on va le savoir à la fin de l'émission.
Les animaux pas ceux en chocolat comme vous croyez que...
C'est bien de dire tout ce que je vous dis en off, hein. C'est sympa. Voilà, on aura également une petite recette de tapas si vous êtes sage. On a 2 heures pour voyager et pour nous cultiver également. Vous êtes les bienvenus dans ce club de l'été. À vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Et nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac et Olivier Pousse, notre invité et comédien, capable de jouer Marivaux, capable de dresser des portraits à la télé ou de traverser une scène toute nue, il sait tout faire.
Tout nu, parce que j'ai dit toute nue, c'est peut-être moi.
Je peux le faire.
Et surtout, je suis un peu stressée, je pense. Il sait nous émouvoir et nous faire rire. Cher invité, quelques sons sur vous, sur votre parcours, un minuscule condensé de votre vie.
Vous me trottez dans la tête même quand je n'y suis pas. Passez-vous par la fenêtre ou l'escalier du bas.
Souvent dans des livres que j'ai faits, il y a un écrivain derrière qui est comme un fantôme, comme une ombre projetée sur le texte.
Alors il me vient une idée, si l'on partait comme de vieux fous, comme de vieux fous.
Ma fille a un amant.
Moi aussi.
Quoi ?
Je dis moi aussi, j'ai hâte de parler.
Bon, alors vas-y, je t'écoute.
Ta fille a un amant.
C'est moi qui viens de te le dire.
Oui, mais je le savais avant que tu me le dises.
Il n'y a pas de metteur en scène dans ce film de merde ? Où est-ce qu'on te brillait ?
Il n'en a rien à foutre, il est déjà en train de tourner un autre film.
Alors, une question de Francis de Bré-Contrebert. Professeur, quel est votre prénom ? On sait, professeur. Roland, c'est mon nom, professeur, c'est mon prénom.
Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur.
Bonjour Vincent de Dienne.
Bonjour Eva Rock.
Comment ça va ?
Ben ça va.
C'est une joie de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vincent de Dienne, on vous attrape entre 2 jours de tournage. Hier soir, vous étiez sur nos écrans télé grâce à TMC qui diffusait votre seule en scène s'il se passe quelque chose. Dans quelques semaines, vous serez à l'affiche de L'Étreinte. C'est un film de Ludovic Bergerie dans lequel vous jouez aux côtés d'Emmanuel Béart. On vous attend également auprès de Catherine Deneuve, Alice Belaïdi et Jonathan Cohen pour Terrible Jungle. C'est une comédie qui sortira en 2020. On va évidemment revenir sur tout ça. Mais auparavant, qu'est-ce que vous avez entendu dans vos petites oreilles ?
Ah ben j'ai adoré ce petit portrait. Je suis trop content.
C'est la première fois que on peut vous en faire une copie.
Je peux me le mettre en réveil. Ça me mettrait de bonne humeur tous les matins. Je penserai à vous.
Alors.
Non mais il y a eu cette chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle « Vous me trottez dans la tête ». Non mais c'est la première fois que j'entends la voix d'Anne Sylvestre avec tout de suite la voix de Hervé Guibert. Ensuite, ça m'a ému.
Alors Anne Sylvestre, c'est une chanteuse que vous adorez et que vous avez découvert sur les chansons d'adultes entre guillemets.
Oui.
Parce qu'on a souvent l'habitude de penser à Anne Sylvestre en tant que aux Fabulettes. Ouais. Et c'est plus que ça.
Mais moi, j'écoutais déjà les Fabulettes quand même. Mes parents m'avaient fait écouter. En général, on est soit Team Henri Dess, soit Team Anne Sylvestre.
Exactement.
Voilà, moi, c'était Anne Sylvestre.
Moi, c'était Annie Cordy.
Ah oui, mais il est belge.
J'ai la bande du curé en tête depuis deux. Enfin, ça fait 48 heures que j'ai.
C'est parti, on va tous la voir maintenant. Merci. Merci.
Tout l'été.
On a entendu la voix, effectivement,
d'Hervé Guibert. Qui est un écrivain que j'adore.
Ouais. Une chanson
dont
qui
j'adore la voix.
Ouais, une chanson qui vous fait pleurer, on a entendu aussi.
Ah bah de Souchon, Michel Sardou. De Sardou. Ouais. Ouais, les vieux mariés.
Mais pourquoi elle vous fait pleurer, cette chanson?
Mais parce que mais parce qu'elle est sublimement écrite.
Ouais. On entend, oui, on alors entend les miaulements mais... que vous entendez. C'est pas Lise qui s'amuse à faire des miaulements. C'est Michoko qui voilà, est avec nous et qui est votre chat.
On a rendez-vous chez le vétérinaire à 11h30. Vous êtes obligé de le prendre parce
qu'il a l'air
vaccin.
Bien dans le studio. Voilà, hein.
Il est
oui,
posé.
Il est sympa.
Bon.
On vous a mis les photos sur Instagram et sur Twitter. On a entendu donc la chanson des vieux mariés. On a entendu un générique de Champs-Élysées. Mais dites pourquoi.
Mais parce que j'adorais ce truc.
Mais vous imitiez même Champs-Élysées, c'est-à-dire que vous organisiez avec vos peluches Champs-Élysées dans votre
oui,
chambre.
Oui, je faisais le début du truc.
Ouais.
Enfin, c'est-à-dire que je faisais comme si j'étais invité par Michel Drucker et que les peluches étaient le public. Je mettais la musique. Mais je faisais ça aussi avec Tam Chiki Tam Chiki Tam 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 Tin Tam de Vivement Dimanche.
De Vivement Dimanche.
Voilà. On a reconnu quand même.
Oui, c'est vachement bien fait.
Bien sûr.
Oui, je faisais ça. Moi, je faisais plein de trucs bizarres.
Ouais, on a entendu également la voix de Claude Jansac qui donne la réplique. À Louis Funès.
Ah oui, dans le musée. On est quel jour là?
Oui, on va en parler après.
Ah, trop bien. À Saint-Raphaël, il y a un musée qui a ouvert hier.
Exactement.
Qui a été inventé par Clémentine Déroudil, oui. Qui est la petite fille de Robert Doisneau,
oui.
Et qui est une fille géniale et qui a ouvert ce musée en très peu de temps et qui a fait un travail sans sas.
On ne savait pas que vous connaissiez aussi bien, mais on avait prévu d'en parler
bien,
tout à l'heure. Vous voyez.
Génial. Bon,
c'est fait. Et Claude Jansac,
mais je l'enlève.
Est-ce que vous aviez des posters de Claude Jansac dans votre chambre?
Non, j'en ai un maintenant.
Ah, vous en avez un maintenant?
Ouais, enfant, non. Oui, maintenant, j'ai une petite photo de Claude Jansac dans un cadre à la maison. Ouais, j'adorais sa voix. C'est une voix un peu sucrée, comme ça, on dirait un sucre d'orge, sa voix.
On a également entendu un extrait d'un film dont je crois vous connaissez les répliques par cœur, à savoir les acteurs.
Ah, mais en plus,
de
vous avez
Bernard
choisi un extrait que j'adore. C'est la voix de Jacques François.
Oui, de Jacques François.
Cet acteur merveilleux.
Oui. Qui est face à Michel Serrault, à Villeray et à Dussolier dans cette scène.
Il y a tout le cinéma français dans ce film. Ouais. Et j'adore ce film.
Il paraît que vous connaissez toutes les répliques par cœur quasiment.
Oui, je pourrais le jouer tout seul. Je pourrais faire Mais voilà, je ne sais pas quoi écrire pour mon prochain spectacle. Je pourrais le faire tout seul sur scène.
Alors, en parlant de scène, on a aussi entendu très brièvement, mais la voix de Professeur Rollin, parce que ça a été quelqu'un d'extrêmement important pour vous.
Très important, que j'ai admiré adolescent, et puis après, dont j'ai découvert les spectacles, qui est un des plus grands auteurs qu'on ait, et qui a ce personnage génial du Professeur Rollin. Ouais.
Et on a fini avec le petit pain au chocolat de Joe Dassin. Pourquoi, d'après vous?
Eh ben, mais vous êtes tellement bien renseigné, vous êtes la Stasi, c'est
vous avez vu ça.
C'est l'œil de Moscou.
Oui, c'est le premier... c'était la première cassette que j'ai achetée avec mes sous,
ouais,
mon argent de poche,
ouais.
Le best-of de Joe Dassin.
Et j'ai juré de ne pas avoir appelé votre maman.
J'ai vu. Et nous avons aussi retrouvé ça.
Pas du tout. En fait, pour être totalement honnête, Vincent De Dienne, on aurait pu mettre des dizaines et des dizaines de sons supplémentaires, notamment la voix de Muriel Robin, qui a extrêmement compté pour vous,
oui.
Qui compte toujours pour vous,
ouais.
Mais aussi Laurent Ruquier, qui produit vos spectacles, etc. On va évidemment reparler de tout ça. On a jusqu'à 11h pour évoquer votre parcours, Vincent De Dienne, et passer en revue vos projets. Mais comme nous sommes au début de notre émission, bien Renan Luce, il chante au début sur Europe 1, c'est logique.
Et c'est encore Renan Luce.
Le club de l'été sur Europe 1, Eva Roch.
Est-ce qu'on peut reprendre au début? Reboire le vin que l'on avait bu? Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de forme. Et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien, comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille en luttant contre le sommeil? Est-ce que jusqu'au mot fin on tient? Je sais bien l'existence suit le même unique sens que l'eau. Mais referais-tu ce baiser, offert autant que volé tantôt? Qu'on peut reprendre à la source, poser les pierres qui changent sa course, inonder un nouveau décor. Va savoir ce qui peut éclore, des plantes au bord du fleuve, toutes neuves. Je sais l'incandescence des cœurs et par essence agis. Mais referais-tu ce baiser, offert autant que voler fébrile? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Est-ce qu'on peut reprendre au début?
Ronan Luce sur Europe 1 et dans un instant nous retrouvons Vincent Dedienne pour la suite de ce Club de l'été.
Le Club de l'été sur Europe 1,
9h-11h,
Eva Rock.
Et il est 9h22, presque 23, Olivier Pouls. Nous sommes sur Europe 1, nous sommes en direct jusqu'à 11h.
On va finir la saison
pour ce club
avec
de l'été.
Une heure juste
ouais,
pendant
vous avez
une
vu
émission
ça
entière.
Je vous la donnerai avec les secondes demain, rien que pour vous faire plaisir. Notre invité du jour est le comédien Vincent Dedienne. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer évidemment vos messages et vos questions également. Vincent Dedienne, une petite question, mais comme ça, vous indiquez quoi sur vos papiers administratifs à la catégorie profession? Vous mettez quoi?
Comédien. Comme vous l'avez dit. En général, je mets ça.
Depuis longtemps.
Pas si longtemps, mais si quand même, en fait, depuis 10 ans, au moins 10 ans.
Depuis 10 ans. Ouais. C'était juste pour vous faire prendre conscience que ça faisait 10 ans, en fait, que vous étiez
mais
déjà...
Mais quelle horreur, vous êtes une saloperie.
Mais non. Mais non.
Pour faire prendre conscience que vous êtes déjà
vous
un petit peu
vieux.
Cramé, mon vieux.
Vous avez 32 ans, vous avez une vie artistique hyper dense, mais c'est au théâtre que vous avez débuté, peu de gens le savent, vous rêviez de faire la Comédie Française, où en fait l'envie de faire rire a pris le dessus sur tout.
Non, l'envie de faire rire a pris le dessus sur tout, dès le début. Tout de suite. En fait, il a fallu que j'entre dans une école de théâtre à Saint-Étienne, qui est une très bonne école, une des écoles nationales, comme on les appelle, c'est-à-dire l'équivalent du conservatoire à Paris ou du TNS à Strasbourg, pour qu'on me mette dans les pattes les grands textes, Shakespeare, tout ça, et que je me dise « Ah oui, en fait, ça m'intéresse aussi, mais sinon, moi, je voulais vraiment être... humoriste. »
Et oui, parce que vous aviez 7 ans et vous tombez sur une cassette VHS, vous l'avez souvent raconté cette histoire, vous le racontez aussi dans votre spectacle, une cassette VHS de Muriel Robin, et là vous comprenez qu'il y a un plaisir infini à être sur scène pouvoir faire rire les gens.
Oui, déjà, je crois vraiment que ce que je vois, je ne le comprends pas tout de suite, parce que c'est la première fois que je vois un spectacle, donc c'est la première fois que je vois un théâtre, des gens assis, des lumières, cet endroit un peu bizarre, artificiel, qui ressent... J'ai dû me dire, tiens, c'est une espèce de fête foraine, je sais pas, c'est bizarre ce truc. Mais j'ai senti que ça résonnait en moi. Et puis, même petit, en fait, je passais mon temps à vouloir faire rigoler les adultes.
Est-ce que ça donne un pouvoir particulier quand on a cette faculté de rentrer en scène et de voir que les gens, en fait, rigolent en permanence
Sur scène, vous voulez dire? Ah ben, un pouvoir... ça remplace la séduction un peu. C'est-à-dire que, en fait, ça remplace, ça remplace la beauté.
Non, mais il n'y a que vous qui dites ça.
Oui, mais il faut arrêter avec ce complexe.
C'est étonnant.
C'est dingue.
C'est vrai. Je suis vraiment venu me faire engueuler, moi, ce matin.
Il
faut qu'on lui dise qu'il est beau.
Vous dites en interview, l'humour, c'est la beauté du pauvre.
Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est un truc qu'on partage avec pas mal de collègues, ça.
Mais c'est vrai qu'à l'école, il y avait deux catégories. Il y a les super beaux qui attrapaient tout ce qu'ils voulaient. Les super drôles.
Les forts, les musclés, à qui on n'ose pas
rien dire. Et ceux qui jouaient de la guitare.
Ah oui, mais ça, heureusement, il n'y en avait pas.
Mais
ça
m'a beau,
foutu un cafard.
Quand t'es beau, t'es drôle et tu sais jouer de la guitare, champion du monde.
Ouais, ça, il y en a. Mais par exemple, vous voyez qui est Guillermo Guiz?
Bien sûr.
Guiz, pardon. Vraiment, là, moi, je ne comprends pas.
Vous comprenez pas quoi?
Parce que qu'il soit si drôle et si beau.
Ah, on est d'accord.
J'ai envie de.
Je devrais pas le dire, mais on est d'accord.
Je pense que je voudrais lui interdire de faire cette profession.
C'est pas efficace au niveau de la distribution.
Non, là, c'est pas juste.
Vincent Dedienne, combien vous avez de projets en cours? Est-ce que vous le savez?
En cours, non, j'en ai.
Sur le feu. Sur le feu, ouais, comment on dit.
Non, j'en ai 3-4, 4-5.
3-4, et l'écriture d'un spectacle, peut-être.
Bah, j'ai un peu. Là, ça y est, j'ai ouvert un fichier Word.
Ah, c'est bien, c'est un bon début. Vous avez marqué bonsoir.
Il y a un titre.
Bonsoir Paris. Entre parenthèses, adapté selon la ville.
Voilà. Mais alors, il se passe quand même des choses merveilleuses dans votre vie, parce que vous qui aimez tant les actrices, on va vous retrouver à côté d'Emmanuel Béart dans quelques semaines pour l'étreinte.
Trop de peau. Ouais.
Vous allez jouer avec Catherine. Vous avez joué avec Catherine Deneuve pour Terrible Jungle. Ouais. Quand on vous propose, quand on vous propose une comédie avec Deneuve, vous dites quoi?
Oh bah, je me dis déjà, j'aurais pas le casting. Parce que moi, j'ai une particularité, c'est que je foire assez bien mes castings. J'ai l'impression qu'on me demande d'être vendeur en même temps qu'être acteur. Et du coup, je suis pas très fort en casting. Donc,
vous êtes encore casté.
Ah bah oui, parce qu'en fait, ça s'appelle plus trop des castings, ça s'appelle des essais. Ouais. On passe quand même de. Ouais, bah oui,
c'est
en fait.
C'est important quand même. Bah ouais.
Et à des concurrents donc.
Bien sûr, que tu croises à la sortie, voilà, tu fais « Ah, tiens !»
Et donc là, vous pensez ne pas avoir le casting pour le film avec
Deneuve ? Oui, d'autant que je viens d'en foirer un. Je viens d'en foirer un et mon agent m'appelle pour me dire « Bon, alors, t'as raté, c'est ce que je te dise. Bon, mais là, il y a un film avec Catherine Deneuve. » Donc là je fais « Ah non, je vais rater un film avec Catherine Deneuve encore. » Et en fait, c'était pas un casting, là. On m'a proposé le rôle tout de suite.
Ah, la classe ! Vous
voyez ce que je veux dire ? Ah ouais. Donc, mais du coup, j'ai passé un long moment, j'ai pas compris tout de suite. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, il va falloir que je prépare un casting que je vais rater. Puis, quand j'ai compris que j'allais pas pouvoir le rater, puisque j'allais pas le passer, j'étais très, très, très content.
Et pourtant,
mais il a fallu que je sois sur place pour me rendre compte quand même.
Mais Catherine Deneuve, elle dit pas que des choses gentilles sur vous. Écoutez.
Il est un peu ennuyeux, il parle très vite. On comprend rien de ce qu'il dit. Parce qu'il parle. Moi, je parle vite aussi, mais lui, il parle très, très vite, très bas. C'est un effet de lecture, c'était.
Il est odieux.
Pas très agréable.
On connaît le même, donc manifestement.
Ah, bah oui, je crois qu'il y en a qu'un comme ça.
Oui, il n'y en a qu'un comme ça.
Ah, oui.
C'était un extrait quotidien, évidemment, sur TMC, émission à laquelle vous avez participé. On va évidemment reparler de votre rapport à la télé un peu plus tard. On évoquait vos débuts. Est-ce qu'avec l'expérience et le succès, vous avez gagné en confiance, Vincent Dodienne ?
En confiance dans la façon de travailler ?
Ouais, dans votre façon de travailler, sur scène, dans votre vie.
Non. Ah, dans la vie, oui.
Dans la vie, oui.
J'ai un peu plus confiance... je sais pas. Non, mais en même temps, en fait, ça augmente le doute vachement, le succès.
Ah, c'est vrai.
En vrai. Bah oui, parce que ça augmente la possibilité de décevoir. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Donc, vous connaissez ça, Eva ?
Oui. Mais c'est vrai. Non, mais c'est horrible, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, vous voyez ?
Mais oui, oui.
En fait, on se dit. On se
met la pression
maintenant
tout seul.
Les gens
ont on se dit en fait il y a de plus en plus de gens qui peuvent s'apercevoir à n'importe quel moment qu'on est un imposteur.
Est-ce que vous êtes heureux sur scène? Question vraie.
Je suis trop heureux.
Est-ce qu'il y a un endroit où vous êtes plus heureux que sur scène?
Non, peut-être peut-être dans les bras d'Eva Rock.
Vous vous sentez protégé quand vous êtes sur scène?
Ah mais sur scène c'est merveilleux, il peut rien. Je sais pas, en cas de guerre mondiale, vraiment, il faut aller sur scène. Moi, c'est sur scène où je me. Ben oui, parce que je sais pas. Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas d'époque, il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas la fin du monde. Comme là, en ce moment, on n'arrête pas de parler. Tout le monde, on pense vraiment que c'est la fin du monde. Mais en fait, sur scène, le temps est. Il n'y a pas de chronomètre, il n'y a rien.
Et alors, comme Dalida, mais le plus tard possible, vous voulez mourir sur scène?
Ça je sais pas parce qu'à mon avis c'est une logistique chelou à mettre en place.
On va éviter de parler de mort, mais dans un instant, Vincent Dodienne, vous allez nous faire partager votre coup de cœur pour une immense actrice. Et puis de notre côté, nous avons eu aussi un coup de cœur ciné-littéraire. Je sais, ce mot n'existe pas, mais comme je suis la patronne, je dis ce que
vous
je
faites
veux.
Ce que vous
voilà.
Voulez.
À tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend avec le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été, en présence de notre invité, le comédien Vincent Dodienne. Vincent, souvent les gens nous demandent, il est comment un tel dans la vraie vie, il est sympa, vous voyez, à chaque fois quand on connaît un peu la, quand on a la chance.
Jean-Pierre Foucault.
Et voilà, Jean-Pierre Foucault, etc. Et donc, et Vincent Dodienne, il est sympa. Ben oui, il est sympa, Vincent, il est même plus que ça, il est bienveillant. La preuve, quand on vous a demandé quel était votre coup de cœur, vous nous avez répondu, peut-être pourrions-nous rendre hommage à Edith Scob, immense actrice. Et ben, votre réponse, elle m'a émue, Vincent Dodienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette immense comédienne qui est décédée le 26 juin dernier ?
Ah ben, elle est... En même temps, c'est pas du tout... Elle est en fond d'écran sur mon...
Sur votre portable.
À la radio, c'est nul. Mais oui, elle est décédée là. Bon, de toute façon, souvent, ça passe vite, en fait, les hommages. Hein. Évidemment, on rend hommage comme J'ai l'impression que les gens meurent de plus en plus, donc on a de moins en moins de temps pour en hommage, mais c'est passé un peu inaperçu, ça m'a fait du chagrin, parce que c'est vraiment une merveilleuse... Je crois qu'elle est morte à 82 ans, mais elle avait vraiment l'air d'avoir 44 ans.
C'est vrai.
elle a eu l'air d'une jeune fille toute sa vie, et c'est une actrice de théâtre que j'ai vue deux fois sur scène, moi, et vraiment, à chaque fois, j'ai été... clouée sur mon siège, et au cinéma, je sais pas, puis elle est une actrice. Le moule s'est cassé après sa naissance. Il n'y en avait vraiment pas deux comme elle. Elle a une silhouette très grande, très délicate,
très belle. Qu'elle aurait méritée.
Oui, absolument. Mais en même temps, je pense que peut-être ça lui allait, parce qu'elle a quand même fait des grands. En fait, c'est vraiment une chérie des cinéphiles,
bien sûr.
Qu'elle a fait des films majeurs, vraiment majeurs.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'un film pour lequel elle avait obtenu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Ça s'appelle L'heure d'été, d'Olivia Sayas.
J'espère que t'es là encore pour longtemps, mais quand tu ne seras plus, les enfants seront grands. Et tu sais très bien comme ils sont attachés à cette maison, on y viendra souvent.
Oui, ils se sont attachés comme on est attaché à son enfance. Ils auront leur vie, leurs soucis, autre chose à faire qu'à se préoccuper de ce bric-à-brac d'un autre âge.
Qu'est-ce qu'elle disait ?
Elle disait qu'après sa mort, la maison serait vendue. C'était inévitable.
Mon souci, c'est qu'on soit tous.
Vous avez peut-être un point commun avec Edith Cobb, Vincent Dedienne, c'est cette capacité à mener à la fois des projets dits d'auteur et des projets plus populaires, parce qu'on l'a vu aussi dans des feuilletons à la télévision, on l'a vu dans des films très populaires également, et du cinéma d'auteur, comme vous le disiez. Est-ce que vous êtes attentif, vous, à cet équilibre de faire à la fois des choses peut-être très exigeantes et des choses où vous faites plaisir, où c'est populaire au bon sens du terme?
Je ne suis pas attentif au sens stratège.
Vous ne calculez pas.
Non, pas du tout. Pas du tout. Puis, de toute façon, là, j'en ai encore. Même si je voulais, je n'en aurais pas les moyens parce qu'on ne me propose pas encore suffisamment de trucs pour que je puisse faire mon marché et dire alors là, j'ai bien fait. Mais non, je suis attentif à faire des choses que je trouve bien. Et en fait, la qualité se glisse partout.
Est-ce que vous alliez au cinéma quand vous étiez enfant?
Non. Je suis allé voir Pocahontas.
Pocahontas. C'est bien aussi. Je vous pose la question parce qu'on a eu un coup de cœur pour un livre, presque un guide en fait, qui est intitulé « 100 grands films pour les petits », édité chez Grund et Arte Éditions. C'est un livre signé Lydia et Nicolas Beaucrieff. Bonjour Nicolas Beaucrieff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes venu avec votre fils qui a presque 11 ans. Salut, tu veux dire un mot au micro? Attends, va-t-on allumer ton micro. Salut. Et ton prénom?
William.
Salut William. Vous êtes réalisateur, scénariste, Nicolas Beaucrieff, et désormais le meilleur ami des parents qui ne savent pas comment occuper leurs jetons, surtout pendant ces vacances d'été. Quelle bonne idée, un recueil de 100 films à partager avec nos enfants âgés de 3 à 8 ans. Comment est née cette idée et comment surtout vous avez réussi à faire la sélection de 100 films?
Alors, c'est une idée de mon épouse Lydia, qui est aussi la monteuse et qui est la monteuse de mes films. Et en fait, on s'est rendu compte, on est très cinéphiles, c'est notre passion commune, on passe notre temps à regarder des films en permanence en fait.
C'est vrai, William.
On a assez peu de vie sociale et on passe notre temps à montrer des films à nos enfants. Et on s'est rendu compte que la cinéphilie en fait avait tendance à disparaître totalement, enfin que le passage du siècle avait quand même fait du cinéma une sorte d'art ancien. C'est-à-dire que le cinéma muet aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de totalement abstrait. Et nous, on savait par expérience que montrer des films de l'histoire du cinéma, même très vieux, pouvait passionner les enfants. Et donc, on s'est dit petit à petit, mais c'est quand même dommage que voilà, les gens connaissent Toy Story, mais ceux qui connaissent Toy Story ne connaissent pas forcément Babe, le cochon devenu berger, que ceux qui connaissent Babe ne connaissent pas forcément Dark Crystal, et ainsi de suite. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un guide qui permettrait aux gens d'éduquer leurs enfants à la cinéphilie, parce qu'aujourd'hui, on trouve tout. Mais c'est l'expertise qui est devenue rare.
On est bien
et
d'accord.
Comme nous, on est cinéphiles depuis l'âge de 15 ans et que je dois bien dire qu'on s'est vraiment gavé de films au fil des ans, on s'est dit ben, peut-être qu'on est bien placé, à la fois comme parents, comme techniciens du cinéma et comme cinéphiles, pour dire voilà, de façon tout à fait humble et personnelle, voilà 100 films qu'on vous propose, qui commencent au cinéma muet et qui se terminent aujourd'hui.
Alors, d'ailleurs, en début de livre, vous donnez quelques conseils aux parents pour bien apprécier ce guide et guider leurs enfants. Est-ce que vous pouvez en partager quelques-uns avec les auditeurs pour qu'on comprenne bien la philosophie de
l'ouvrage? La première chose, c'est de voir les films avec les enfants. Ouais. Parce que souvent, les gens mettent les enfants devant soit des chaînes pour enfants, en se disant bon, comme ça, on s'en débarrasse.
Devant un écran.
Mais ils ratent quelque chose qui est le bonheur de pouvoir partager un film avec un enfant, de le voir s'émouvoir devant des scènes qui nous ont nous-mêmes émus quand on était enfant, de la même façon qu'il y a un bonheur à lire un livre de contes le soir avant le coucher.
Oui.
Et un autre conseil qu'on donne, c'est on n'est pas obligé de voir un film jusqu'au bout. On peut faire comme un livre. Quand on lit un long conte aux enfants le soir, on dit bon, là, on lira la suite demain. Bon, on peut très bien regarder un film de façon séquencée, montrer, puis s'arrêter dans une scène comme ça de climax où l'enfant va être hyper, je sais pas comment dire, avoir hyper envie de voir la suite et dire voilà, on regardera la suite demain. Et c'est un partage de temps et d'une découverte artistique qui serait dommage que les parents ne puissent pas vivre avec leurs enfants.
William, il y a un film que tu adores plus que tout.
Oui, Mon nom est personne.
Mon nom est personne, d'accord. Et ça, c'est papa qui te l'a fait regarder, Mon nom est personne, parce que toi, tu ne serais pas allé tout seul pour voir ce film.
Non, pas trop, parce que non. Je n'aimais pas ce cinéma.
Si je ne connaissais pas ce cinéma-là, eh oui. Alors, j'ai demandé à l'équipe quels étaient les films qui les avaient marqués quand ils étaient petits. Nicolas, il n'y a que moi qui réponds au guide, parce que Olivier Pouls, c'est quand même le gendarme à Saint-Tropez.
Oui, mais on a mis un De Funès.
Vous avez mis un De Funès,
c'est forcément.
Vrai.
La
Grande Vadrouille.
On s'est forcé, on s'est dit, on met un seul film par metteur en scène,
bien
parce
sûr.
Que sinon, Chaplin, il en prend cinq.
Mais bien sûr,
plus, et on met un seul film par grand acteur. De Funès était inévitable, et La Grande Vadrouille, c'est quand même le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre.
Mais il y a des petits encadrés à chaque fois où vous dites, si vous avez aimé ce film, vous pouvez évidemment aimer d'autres films. Alors, Lispressac, c'est Danse avec les loups.
Oui, avec
Kevin Costner. J'avais
8 ans, je crois.
Non, mais c'est exactement pareil. C'est intéressant parce qu'on a mis, nous, La Flèche brisée, qui est le premier western pro-indien.
Ah oui, voilà.
Donc, ça correspond avec Danse avec les loups, qui est, je dirais, un descendant, 40 ans plus tard, de La Flèche brisée, avec James Stewart, qui est un très beau film.
Vous voyez, alors, Pocahontas pour Vincent de Dienne, on reste avec les Indiens, forcément. Et moi, c'était E.T. Je pense qu'on est à peu près 1 million à bord d'E.T., mais bon, c'est le film d'une génération.
Vous avez vu le casting de l'enfant de E.T. Alors, sur YouTube, on trouve le casting. C'est hallucinant. Quand il passe le casting devant Spielberg.
Ah oui.
Ah oui, il est brillant. Et en fait, à peine il a passé le casting, Spielberg dit « You got the job, kid ». Parce que tout le monde est en larmes et tout ça. C'est hallucinant.
Vous rêvez de tourner avec Spielberg ?
Ah bon ?
Je sais pas.
D'accord.
Je sais pas, vous êtes
non, mais E.T., c'est génial.
Ah oui. Ah, vous l'avez vu, E.T.
Ah bah bien sûr.
Ah d'accord, d'accord. Mais quand même. Mais oui, mais vous l'avez vu, il était sorti depuis un moment quand vous l'avez...
Bah je sais pas, est-ce quelle année, E.T.
De 82, ouais. J'allais dire 81.
Mais ce qui est étonnant quand on projette à des enfants des vieux films comme ça, c'est de voir le regard qu'ils ont sur un cinéma qui est très différent du cinéma contemporain, dans le rythme, dans les couleurs, dans la mise en scène. Parfois, ça demande un petit temps d'adaptation.
Ben, c'est-à-dire, c'est très, très intéressant. Le cinéma muet, par exemple, pour des enfants de 3, 4, 5 ans, ils préfèrent les films muets, à condition qu'on les choisisse, à des films parlants. Ça leur demande beaucoup moins d'efforts, parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de mots qu'ils ne comprennent pas. Donc il suffit de les regarder avec eux, de leur lire les intertitres, les cartons, il y en a en général assez peu, mais ça les passionne. Il y a notamment un documentaire qui s'appelle « Nanouk l'Eskimo », qui est un film qui a été un des premiers documentaires qui a été tourné sur les Inuits. Quand on voit une famille inuite au milieu de petits chiens de traîneau, bébés, au milieu des fourrures dans les igloos, je peux dire, il n'y a pas un parent et pas un enfant qui ne font pas devant ces images. Oui. Donc l'idée, c'était à la fois de mettre des classiques auxquels on ne peut pas échapper, La Grande Vadrouille, E.T., Kirikou, évidemment, mais aussi de mettre plein de pépites à découvrir. Là, par exemple, pour tous les gens qui écoutent, et je vous incite tous à cliquer sur Internet, tout devait se trouver en un clic. Pas de chef-d'œuvre introuvable. Le Hérisson dans le brouillard, qui est un petit film russe de 11 minutes, qui est un grand classique du cinéma d'animation, considéré comme le meilleur film d'animation de tous les temps par beaucoup de critiques. Le Hérisson dans le brouillard, vous regardez ce soir avant le coucher, avec ou sans enfant, je peux vous dire, vous allez passer une belle nuit. Donc il y avait l'idée de faire découvrir des choses comme ça.
Ah, je vais le faire.
En vous écoutant, du coup, je pense à autre chose. Notre père nous emmenait voir les Marx Brothers. Et moi, c'est des souvenirs. Parce que c'est des gags, parce que c'est international et parce qu'il n'y a pas besoin finalement. Et pourtant, c'est en noir et blanc.
Alors les Marx Brothers, on ne pouvait pas le mettre parce que ce n'est que en VO. C'est appréciable.
Oui, c'est
et donc, on s'est dit quand même, le livre est pour
3-8
ans.
On
s'est dit,
il
faut que les films soient possibles en VF pour la plupart. Parce que sinon, ça devient compliqué. C'est-à-dire, des enfants de 5 ans devant un film en VO, c'est difficile.
Et Nicolas Boukrieff, en VF, en version française, on verra 3 jours et une vie au mois de septembre prochain.
Oui, le 18 septembre.
C'est votre prochain film.
C'est le prochain film, ce qui est adapté de Pierre Lemaitre, qui avait fait Au revoir là-haut.
Donc
c'est la suite, en fait, c'est le livre qu'il a écrit après Au revoir là-haut. Et il a fait comme pour Au revoir là-haut. Et il est allé voir Dupontel en disant voilà, je voudrais que ce soit vous. Et il m'a fait le même honneur, c'est-à-dire qu'il est venu me voir en me disant voilà, j'ai fait ce livre, j'ai fait le scénario, je voudrais que ce soit vous. J'aime ce que vous faites. Donc ça ne se refuse pas. J'ai lu le scénario, c'est une histoire qui ne pouvait pas se refuser. C'est tellement bonne histoire. Ça n'était jamais arrivé. C'est la première fois que je fais un film que je n'ai pas écrit. Et je dois avouer que je suis tombé fou amoureux de cette histoire et j'espère lui avoir rendu. Hommage.
Eh ben, vous viendrez nous en reparler, j'espère, sur l'antenne d'Europe 1. Merci infiniment d'être passé par ce studio en direct avec William. Salut William, merci beaucoup d'être venu. Votre livre s'appelle « 100 grands films pour les petits ». C'est édité chez Grund et Arte Éditions et on vous le recommande. Dans un instant, on va continuer à parcourir la liste de nos envies avec nos coups de cœur écran. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Eva Rock.
2 heures de direct tous les matins, de 9h à 11h avec mes loustiques préférés, Lise Pressac et Olivier Pouls. C'est ça, le club de l'été d'Europe 1. Mais un club sans invité VIP, ça serait bien triste. Alors ce matin, nous avons l'honneur et la joie de recevoir le comédien Vincent De Dienne, qui sera à l'honneur de 2 films dans les prochaines semaines, notamment L'Étreinte et Terrible Jungle. Un petit cadeau, Vincent, pour vous, parce que vous êtes venu avec Michoko. Mais j'ai trouvé un livre pour vous, ça s'appelle Les chameaux, jeux de mots félins, charmeurs et chaleureux. C'est des illustrations de chats avec plein de jeux de mots autour de chats. Et alors, il y en a que j'adore particulièrement, le chapitre se distingue par un tempérament jovial. Il fait toujours le clown ou le pitre plutôt que de lire des ouvrages pourtant composés d'autres chapitres. Voilà, c'est un petit bouquin que j'adore, très très bien.
Merci,
illustré.
Eva,
j'ai pas cité les auteurs.
Daniel Lacotte et les illustrations sont de Pierre Fouillet.
Et c'est chez First Edition. Voilà, c'était un petit cadeau pour vous.
14,95, très élégant de laisser le prix quand on offre un cadeau.
Pardon, je suis désolée. Vincent, est-ce que c'est exagéré de dire que la télévision a changé votre vie?
Non, c'est pas exagéré. Non, c'est vrai.
Vous avez débuté au Supplément, c'était l'émission sur Canal+, avec Maïtena Birman le dimanche, puis après Quotidien sur TMC.
Ouais.
On a eu beaucoup de questions, notamment sur Instagram, comme Fabienne qui nous dit « Est-ce qu'on peut espérer vous revoir dans une émission de télé ?»
Ah, mais... Franchement, je pense que c'est je le souhaite à personne. Non, mais même en fait, au bout de les chroniques, en fait, je trouve que rapidement on arrive au bout d'un processus, parce que en fait, je pense que si j'avais continué, les gens auraient commencé à trouver ça pas bien.
Parce que
forcément, au bout d'un moment,
c'est difficile, faut expliquer
hyper
aux
difficile.
Gens.
Ouais. Bah, c'est hyper difficile parce que c'est très court. En même temps, oui, c'est ça. C'est pas comme un film où c'est des choses très éphémères qui sont, c'est des feuilles d'automne, quoi, les chroniques. Et puis c'est ça qui est bien, c'est que ça passe et qu'on oublie ça très vite. Mais du coup, assez vite, rapidement, on commence à développer des petits tics d'écriture ou des petites béquilles. Ou je pense que ce que les gens aimaient bien, et moi aussi j'aimais bien, c'est que je savais pas si je savais le faire. On était tous un peu débutants, et les gens et moi dans cet exercice-là. Et si j'avais continué, je serais devenu un peu professionnel et je me serais moins amusé, je pense, que les gens aussi.
Est-ce que vous avez d'autres envies en télé, comme animer un talk show par exemple, ou une émission événementielle comme vous avez pu le faire pour TMC cette année?
Là,
avec
c'était
des sketchs,
c'est TMC m'avait laissé carte blanche. Ouais. Oui, ça écrire ça me ferait envie. Ouais, ça j'ai bien aimé le faire, j'aimerais bien le refaire. Mais sinon, non, maintenant je voulais présenter Motus.
Ah, vous voulez présenter Motus?
Oui, mais ça disparaît.
Ah oui, c'est vrai, voilà. Ça s'arrête. Ouais. Ah oui, ça s'arrête avec Thierry Beccaro. Oh, je vous aurais bien vu dans présentateur de Motus.
J'adore ce
jeu.
Vous
voulez l'imiter?
Hein? Non, je ne sais pas l'imiter. Non, je l'aurais fait à ma façon.
Oui.
J'y aurais mis ma personnalité.
Mon Dieu.
Non, mais les jeux, un jeu... Non, genre le maillon fait. Ce que faisait Laurence Boccolini, par exemple, dans le maillon fait, j'adorais. Parce que c'était quand même un exercice d'actrice.
Et est-ce que vous regardez encore la télévision aujourd'hui?
Non, pas beaucoup.
Ouais.
Ouais. Pas beaucoup.
Qu'est-ce que vous regardez quand, par hasard, l'écran s'allume?
Qu'est-ce que je regarde? Les jeux.
Ah, les jeux, c'est vrai?
Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien Fort Boyard, j'aime bien... Ouais.
On vous a sollicité pour faire Fort Boyard.
Non,
j'étais en train de vous imaginer en train de faire Fort Boyard.
Ah, je l'ai fait.
Ah oui, c'est vrai, vous l'avez fait.
Oui, je l'ai fait.
Et ça a été dur.
Non, mais j'ai adoré, mais oui, c'était dur.
Bon, alors je voulais vous faire
une journée avec Evangélie, c'est dur.
C'était ça qui était compliqué,
plus que les épreuves.
Plus que les pigeons.
J'ai quelques conseils télé aussi à vous faire pour ce soir. Un film à voir sur TF1 à 21h, ça s'appelle La Cage Dorée. C'est une très jolie comédie de Ruben Alves avec Rita Blanco, Roland Giraud. Notamment, c'est l'histoire d'un couple de Portugais qui est installé en France depuis une trentaine d'années et qui hérite d'une maison au Portugal. Alors faut-il quitter la France ou pas?
Nous avons le regret de vous informer que votre frère est décédé la semaine dernière. Vous héritez donc de la maison de famille, ainsi que 100% des parts de la société Quinta do Namo, exploitante vin de Porto.
On est riche ! On est riche !
Mais qu'est-ce qu'ils vont penser ?
Ils vont penser que Maria et José, ça fait 30 ans qu'ils bossent comme des acharnés et qu'ils méritent ce qui leur arrive.
Tu viens voir ma maison au Portugal ?
La souriez ?
C'est une comédie très touchante, une comédie sociale qui aborde avec intelligence les thèmes de l'intégration et du déracinement, entre autres. C'est à voir sur TF1 à partir de 21h. Et puis hier, avec notre invité, le musicien Ibrahim Malouf, on a beaucoup parlé de Quincy Jones, génie de la musique. Et bien sur Netflix, je vous recommande un documentaire réalisé par sa fille. Ça s'appelle Quincy, tout simplement. Documentaire, mais remarquable, parce qu'au-delà du parcours de Quincy Jones, le documentaire s'interroge aussi sur la place de la communauté afro-américaine dans la culture et notamment dans la musique aux États-Unis. Voilà, le film s'appelle Quincy, ne manquez pas ce documentaire, c'est remarquable. Vincent De Dienne, dans un instant, Elsa Lévy va nous rejoindre. Elsa, elle adore se plonger dans la presse féminine, ça doit vous rappeler quelque chose. Mais juste avant, je propose d'écouter Madonna et un titre qui date déjà de 2000, Music, sur Europe 1.
Merci.
Madonna sur Europe 1. Et dans un instant, c'est la tornade Elsa Lévy qui arrive en studio.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Il est 9h50 sur Europe 1 et ça papote dans le studio. On est jusqu'à 11h avec vous. C'est votre club de l'été avec notre invité, le comédien Vincent De Dienne. Ça va bien, Vincent ?
Ça va très, très bien.
Vous voulez un petit café ?
Non, j'ai écouté, je suis bien. J'ai mon petit
j'ai
livre, Les Chameaux.
J'ai des gourmandises pour vous parce que je sais que vous aimez les meringues notamment. Enfin, tout ce qui est à base de meringues.
Ouais. Mais vous aussi, non ?
Pas forcément. Regardez, il y a plein c'est de petits gâteaux avec des petites meringues, des petits chocolats. Ouais, c'est pour
approchez
vous.
Approchez ça par voilà. ici.
Non. Non, vous aurez ça quand vous serez invité.
Vincent, je vous présente Elsa Lévy qui vient de s'installer devant vous.
Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute?
Parfait. Est-ce que mon micro marche aujourd'hui?
Oui, mon micro il marche. Elsa. Mais Elsa, vous savez quoi? On
Bonjour
vous
Vincent.
Écoute quand même. Allez-y,
c'est
Elsa.
C'est gentil. Alors, Vincent, moi, normalement, je suis censée faire une revue de presse de la presse féminine, mais quand on m'a annoncé que Vincent De Dienne, le ténor des revues de presse, était notre invité, je me suis dit, bah, je ne vais pas faire une revue de presse, en fait. C'est un peu comme si on me demandait de vendre un appartement à Stéphane Plaza. Je ne joue pas. Du coup, j'ai regardé vite fait si je pouvais peut-être rebondir sur une journée mondiale. C'est un exercice plutôt facile. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la frite belge.
De la frite belge ? Non, mais c'est vrai.
C'est
vrai ?
Oui, c'est vrai. Vrai ou pas ?
Regardez la tête de
passe
pouls.
Avec ça.
Et alors ?
C'est votre journée.
Mais
non,
bien
votre
sûr.
Fils.
C'est belge. Ah oui. Ah bon ?
Votre fils est de son parfum. Bref, alors j'ai réfléchi, panique à bord. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis son horoscope. Sauf que ça, je l'ai déjà fait la semaine dernière à un autre invité. Du coup, qu'est-ce qui reste ? La numérologie.
Bonne idée.
Donc, pour trouver votre date de naissance, je suis allée sur Wikipédia. Et là, j'ai relevé 2-3 petits trucs, des broutilles. Hein, mais je me dis que vous devriez peut-être leur demander quelques légers ajustements.
Ça veut dire quoi, ajustement ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, par exemple, je lis en 2017, il joue en juin 2017, redondance, au Théâtre de l'Atelier. Plus 4 dates du 1er au 4 octobre. Et en 2015, du 28 octobre au 31 décembre, il part en tournée le 14 février. Bon, là, on n'a pas vraiment l'impression de lire une bio, mais plutôt un rapport de la DGSI. Surtout qu'en vrai, on s'en fiche pas mal des dates précises, même s'il se trouve que le 14 février, c'est la Saint-Valentin et que ça peut éventuellement faire un lien en bleu. Et sur Wikipédia, c'est quand même le but du jeu d'avoir un maximum de trucs en bleu. Ça fait plus pro. Ensuite, je lis... En 2014, il est présent sur France Inter le mercredi à 6h55. À partir de 2015, il officiait tous les jeudis à 8h55. Là, on n'est même plus à la DGSI, on est sur le site de la SNCF. En tout cas, je pense qu'on peut gagner en concision. Là, il y a beaucoup trop d'infos, c'est confus. Alors qu'en revanche, dans la section vie privée, il n'y a que 3 mots. Il est homosexuel.
Je crois que Vincent De Dienne est en train de réaliser la fiche Wikipédia.
Elle est nulle. Elle est pourrie.
Voilà, il est homosexuel, tant qu'on y est, le matin il se lève, pourquoi pas quoi. Aucun intérêt. Donc dans vie privée, je pense que ce serait peut-être plus pertinent de mettre ce que vous avez confié au magazine Mademoiselle, à savoir que votre jeu de société préféré, c'est Une famille en or, version Patrick Roy.
Ah, j'adore ce jeu. Ah ouais, avec... Vous devriez faire un disque enregistrement des meilleurs génériques de télé.
Bien sûr.
Vous le faites très très bien.
Vous me faites penser à ne pas me donner trop d'idées pour ma carrière.
Alors, Une famille en or, sur le coup, on ne comprend pas quoi. Mais après, je vais réfléchir, je me suis dit, ah mais oui, bien sûr, quoi pour un enfant adopté, quoi de plus logique. Car effectivement, votre bio commence comme ça. Vincent De Dienne est adopté par un instituteur et une éducatrice. Alors que ça, vaudrait mieux le mettre dans vie privée, justement. En phrase d'accroche, comme ça, ça fait un peu victime, je trouve. Faut éviter.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en phrase d'accroche, en fait ?
Eh ben, par exemple, on pourrait mettre ce que j'ai lu dans Elle, que vous avez fait des études de lettres modernes à la fac, que vous lisez Angot et Modiano. Même si avec Angot, je suis pas sûre que ça crée l'unanimité. Mais bon, ça se tente. Après, heureusement, vos contributeurs, heureusement qu'ils ne lisent pas Marie-Claire, car dans un article, j'ai lu, il apprend à lire tout seul dès 3 ans. Vous le rappelez d'ailleurs dans votre spectacle. Alors attention quand même avec les infos que vous distillez. Il ne faudrait pas qu'on pense que vous êtes mégalo, alors que vous êtes tout l'inverse. Vous êtes réservé, pudique même, c'est ce que vous confiez dans Elle, tout en assumant d'arriver à poil sur scène dans votre spectacle.
On l'a vu hier soir.
Mais ça oui, tout ce qui est paradoxe, ambivalence, esprit torturé, c'est des névroses qu'il faut mettre en avant, ça rend accessible, les gens adorent ça. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus. Quand vous confiez à Paris Match, je passe ma vie à dire que je suis moche, alors vous avez le droit de le penser, mais il ne faut pas le dire. Tout ce qui est dénigrement, autoflagellation, ça ne se fait plus. Je vous conseille d'ailleurs l'article « Faites la paix avec vous-même » dans le magazine Plus de Peps, car la grande tendance aujourd'hui, c'est quand même de s'aimer et d'être pote avec soi-même.
Le magazine s'appelle Plus de Peps.
Plus de Peps, la vie est plus belle après 50 ans, le titre exact.
Ah, d'accord.
Vous avez encore un peu de marge.
Oui,
mais... Voilà. Et enfin, ce qui manque vraiment sur votre Wikipédia, c'est un engagement un peu humanitaire. Alors, je ne sais pas, peut-être défendre l'écologie, c'est un peu prisé en ce moment, mais on ne vous en voudra jamais d'être écolo, quoi qu'il arrive. Bref, pour en revenir à votre numérologie, vous êtes né le jour de la Chandeleur. Donc, vous êtes le chiffre 7 dans le magazine Maxi et le chiffre 2 dans Elle. Ça change d'un magazine à l'autre.
Ah oui, d'accord.
Bon, je vous lis pas le résultat, car ce que ça dit de vous, en vrai, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est qu'avec tout ce qu'on ne sait pas de vous, on a quand même l'impression de bien vous connaître et même mieux que vous faites partie de la famille.
Wow, merci Elsa. Merci beaucoup.
C'est trop bien.
Ça peut revenir.
Mais bah ouais.
Il faut qu'on la revoie, cette fiche Wikipédia.
Bah oui, mais bon,
je pense qu'Elsa va vous la réécrire.
Oui, voilà, je veux bien. Si, moi, parce qu'en plus, vous écrivez bien.
Ah ouais, voilà,
parce que c'est bizarre d'écrire sa propre fiche Wikipédia, non?
Moi, je pense qu'il y en a
beaucoup
qui
le font, mais ça se voit tout de suite.
Juste un petit mot, Elsa. Merci beaucoup. J'ai été très heureuse de passer ce mois de juillet avec vous. Je vais vous laisser entre les mains expertes de l'Ispressac à partir de la semaine prochaine, mais je vous promets de vous écouter et je vous enverrai des petits messages, évidemment.
Merci.
Vincent Dodienne, vous êtes né à Mâcon. Vos parents adoptifs habitent dans un village à 26 km de là, à Cruzy. Vous avez grandi et j'aime beaucoup vos parents. Vous avez déclaré dans Paris Match en octobre 2017 « Mes parents étaient abonnés à Télé 7 jours, pas à Télérama et on était branchés sur Europe 1 plutôt que sur France Inter ». Voilà, tout est dit. Vous venez travailler quand à Europe 1? Non, parce que la porte du studio, elle est ouverte.
C'est
en
vrai
fait, ouais.
Bah alors, d'accord, volontiers, volontiers.
On peut négocier, on peut trouver quelque chose, un petit accord.
Avec vous, c'est vous la bosse?
Non, ça se passe au
7e étage, mais je peux faire le lien si vous voyez. Et puis je prends pas de commission en plus pour vous.
Mais vous avez Mathieu Noël.
Mais non, mais alors je me garde Mathieu Noël. Bon, qu'est-ce que je vous dise. Mais on vous trouve une place.
Bon, d'accord. Hein, je vais réfléchir.
Quel souvenir vous gardez de votre enfance dans Bourgogne? Plutôt heureuse.
Ah ouais, très heureuse. Un peu solitaire parce que bon, mes parents travaillaient beaucoup et j'étais fils unique, donc pas mal de temps à lire et à jouer tout seul à des jeux.
Avec des peluches.
Avec des peluches. Oui. Non, mais pas mal d'ennuis, de lecture, de contemplation. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, c'était pas une jeunesse très rock'n'roll, quoi. Enfin, c'était pas. Oui, voilà, c'est ça. C'était une jeunesse à la
tranquille.
Campagne dans les années 90.
Oh, alors, nous, on aime bien. Mais au club de l'été, on aime bien jouer avec nos sens aussi. Si par exemple, je vous demande une odeur de votre enfance, vous diriez quoi?
La mûre.
La mûre?
L'odeur de la mûre écrasée sur les doigts. Mais parce qu'il y avait beaucoup de ronces autour de la maison, et du coup beaucoup de mûres, et j'adorais
les ramasser.
Et en fait, ça tachait les doigts, et j'adorais... J'aimais pas ce que ça devenait après. La confiture de mûre, la gelée de mûre, ça me faisait un peu suer. Mais par contre, les mûres, je me gavais de mûres.
Ah ouais. Et alors, un goût justement de cette enfance à Mâcon, ça serait quoi?
Ah, ça serait...
La mûre.
Monomaniaque, la mûre. Non, ça serait le goût, ça serait la praline. Le goût de la praline rose, vous voyez?
Ça,
parce que la boulangère en laissait une par jour.
Pour vous?
Oui.
Ah, c'est gentil.
Parce qu'il y avait la boulangère faisait la tournée du pain.
Oui.
Et donc, du coup, tous les jours, j'avais ma brioche à la praline.
La brioche à la praline, d'accord.
La praline.
Et la meringue aussi, parce que la meringue, j'adorais ça.
Bah, tenez,
ils sont bons, les petits gâteaux qu'on vous a...
Mais ouais, très bon.
Et un son, qu'est-ce que vous diriez?
Et un son, le son du clocher de l'église, parce qu'on habitait à côté de l'église, je dirais ça.
Qui vous réveillait à 7h le matin.
Vous avez vu qu'il y a des gens qui veulent faire interdire justement les sons de cloche, les coques qui...
Ah, les coques?
Ouais, les coques aussi. Enfin, tous ces bruits de village et qui rappellent la ruralité et qui font l'identité des campagnes.
Les gens veulent les interdire. Les gens sont globalement en pleine forme en ce moment.
Vous trouvez poli. Ça vous fait vous désespérer du genre humain parfois ou pas?
Un peu. Mais bon, comme c'est la fin du monde, je me dis que ça va être assez savoureux à observer tout
mais
ça.
Mais pourtant, vous êtes hyper positif, on est d'accord? De nature ou pas? Ou c'est moi qui ai l'impression que vous soyez positif?
Ouais.
Non, vous l'êtes?
Ah ouais, je suis positif.
Ouais.
Ouais, je suis pas très... J'ai pas suffisamment de névrose, je crois, pour faire ce métier.
Ah mince.
Non, vous êtes presque déçu.
Ouais, je m'en trouve quelques-unes quand même.
Alors, on connaît votre attachement à la Bourgogne parce que vous y avez grandi, mais vous nous avez dit aussi avoir un attachement particulier à la Corse du Nord. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Et puis, nous y partons justement en Corse du Nord. Et c'est sur Europe 1. A tout de suite.
9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
C'est la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h. Une deuxième heure qui va nous emmener au nord de la Corse et au cours de laquelle nous allons continuer à parler de culture et de gastronomie. N'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité, le comédien Vincent Dodienne. Vous en avez beaucoup. Bonjour Vincent. on va lire tous vos messages parce qu'il y en a énormément. Alors on ne va pas pouvoir tous les lire, mais on va vous en lire quelques-uns, Vincent. Pourquoi la Corse du Nord? Quel est le lien avec cette région?
J'ai du mal à aller en vacances ailleurs.
C'est vrai.
J'adore cet endroit et j'adore les Corses. J'aime bien parler d'eux parce que je trouve qu'ils ont une réputation à laquelle je ne souscris pas totalement. Moi, je les trouve très, très doux, très, très fastoches. Très... j'adore aller en vacances en Corse.
Je pense qu'ils vont être très heureux bah là, de vous entendre ce matin. Vous
non, mais vraiment. Et puis, ouais. Alors, et puis je préfère. Souvent, on entend beaucoup parler de la Corse du Sud. Ouais. Et moi, j'adore le Cap Corse, j'adore la Balagne, j'adore les eucalyptus.
Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Lumière, et alors, d'ailleurs, avec
on va aller du côté du Cap Corse pour aller voir les tours génoises.
Les tours génoises. Et Olivier, c'est notre ami modération.
On va aller du côté du Cap Corse.
On va boire du muscat.
Pour le boire.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Je vous disais, Vincent Dodienne, on reçoit beaucoup de messages et beaucoup de questions aussi. Sylvie nous dit par exemple, est-ce qu'un spectacle avec Muriel Robin, ce serait possible, tous les deux sur scène? Elle dit, ce serait génial.
Écoutez Sylvie, je vais vous répondre. je crois que la question ne se pose pas pour les Français. Si, j'adorerais. J'adorais. Pendant un moment, je voulais faire... Enfin, on en avait même un peu parlé avec Muriel. On voulait faire un espèce de... Parce qu'on avait envie de partir en tournée en bus. Tu sais, comme les rockers.
Oui,
on disait, mais non, mais Jérôme Commandeur, Muriel Robin, Vincent Dedienne, trois générations.
Ah, mais nous, on vient avec vous. Hein.
Oh là là. Et on se voyait jouer à la crapette ou à la coince dans le bus entre deux zéniths et tout ça. Ça nous faisait trop envie. Mais
sauf qu'il faut écrire un spectacle.
Oui, ça suffit pas.
Le bus.
Puis il faut pas avoir le mal des transports.
Ouais, c'est vrai.
Il y a Caroline qui nous demande, alors Vincent Dedienne, essayeriez-vous de laisser pousser vos cheveux, voire de les coiffer en catogan? Je pense que vous seriez d'une beauté intéressante et romantique. Qu'en pensez-vous?
J'avais un catogan dans le Marivaux et j'étais d'une beauté plus légitimus que romantique.
D'accord.
Honnêtement, je ressemblais vraiment à Pascal Légitimus dans Les Trois Frères.
Ah oui, ouais. Oui, bah, c'est pas...
Donc non, mais si je laisse pousser mes cheveux, en plus, ils poussent en haut. Je suis Jackson 5.
Bah, ah oui.
Ouais.
Bon, ça peut être pas mal aussi.
Qui a posé cette question que je la bloque?
Caroline.
Je crois qu'elle est très fan de vous. Il y a beaucoup de gens qui sont fans de vous. Vincent Dodienne, avant d'entamer le voyage géographique vers la Corse du Nord, je vous propose un autre voyage dans le temps. Mmh. Savez-vous, par exemple, quelle chanson tournait en boucle à la radio à l'été 1987, l'année de votre naissance? Vous avez chanté cette chanson, j'en suis sûre. Vous qui aimez la chanson française.
Alors,
en plus.
Alors attends, 87.
87.
Ça pourrait être, comment elle s'appelle celle, un seul enfant de toi.
Ah non, c'est
ça,
marrant.
C'est Phil Barnet,
c'était Phil Barnet.
Oui, Phil Barnet.
Bougez pas. Alors, 1987, à l'été, ouais. C'est ça qu'on entend.
Sur le taxi, c'est sa vie.
Vanessa Paradis, Joe le taxi. Et alors, c'est très étonnant la réponse que vous venez de donner, parce qu'en 2002, vous avez 14 ans, premier spectacle, on est d'accord?
Ouais.
Vous montez votre premier spectacle, alors je ne sais pas s'il y avait de la musique sur les ondes, mais on écoutait à l'été 2002 une reprise d'une chanson française. C'est ça.
Mais oui, par la lofteuse, non?
Mais oui, ouais. Marlène Duval avec Philippe Barnet, exactement.
Ah ouais.
Ah, c'est marrant
ça,
que vous ayez répondu
carton.
Juste avant.
Ouais.
Alors
carton,
la reprise,
ça.
Moi je ne suis pas très fan, je préférais la version
originale.
Ouais.
Ouais.
Oui.
Ah ouais, mais la reprise, elle avait fait vraiment un énorme carton.
Exactement.
Elle avait repropulsé Phil Barnet.
Exactement.
Une chanson pleine de joie.
Pleine de joie, ouais. C'est vrai. C'est,
ça raconte quoi avant ça
ouais. Non, c'est pas terrible. Ça ne se finit pas très bien.
Non. En 2014, vous arrivez sur le plateau du Supplément, donc l'émission dominicale de Canal+, présentée par Emmaïté Nabiraben. Vous y dressez le portrait des invités. Et pendant ce temps-là, on chante quoi, d'après vous, pendant l'été?
Alors là, aucune idée. Je ne me rappelle pas. C'était quoi?
Black M, sur ma route. On a pas entendu. Ah oui, vous l'avez redit deux fois.
Hein, oui.
Il y a quoi sur votre route, Vincent Dodienne? Il y a des rencontres, des obstacles, des grandes joies?
Oh, il y a des grandes joies, des grandes... Il y a beaucoup d'idoles. Il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup.
Alors,
vous savez, j'ai été très fan. Moi, j'adore, ouais. J'adore le fanatisme. Je trouve qu'on fait un très mauvais procès au fanatisme en général parce que ça n'est pas que meurtrier, le fanatisme. Moi, ça m'a sauvé la vie.
Alors, c'est qui vos idoles sur votre chemin?
Et du coup, il y a des gens que j'ai rencontrés après. Et je suis trop content de voir que mes idoles sont des... Parce qu'on dit qu'il ne faut pas trop rencontrer ces...
Parfois, on est déçu.
Ouais, moi, je n'ai jamais été déçu. Ni par Muriel, ni par Pierre Palmade, ni par François Rollin, ni par Laurent Lafitte, ni par Marina Foïs, ni par Eva Rock. ni par Nicolas Boucrier. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y a des gens bien. Je trouve qu'il y a des gens bien dans
ce métier.
Mais
peut-être parce que vous êtes bien et que c'est ce que vous renvoyez aussi. Vous voyez, la bienveillance, c'est un aller-retour.
Ah, peut-être, c'est contagieux, peut-être.
Ouais. C'est contagieux et ça se passe surtout, hein, non?
Ouais, peut-être.
Peut-être.
Ouais.
Vincent Dodienne, vous, homme de culture, nous avons quelques découvertes encore à vous faire partager. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Eva Rock.
Nous sommes toujours en direct, il est 10h12, nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité, un homme que nous aimons, on peut le dire à cette heure-là, hein, le comédien Vincent De Dienne.
Avant
je me suis retenue, je me suis retenue jusqu'à présent. Vincent, grâce
là,
à vous.
Avec l'alcool aidant.
Non, je bois de l'eau. Grâce à vous, Vincent, nous allons partir pour la Corse. Mais avant, on va écouter Alice Pressac parce que cette fille, elle a toujours des bons plans de sortie. Et on commence justement par l'ouverture du musée Louis de Funès à Saint-Tropez.
Mais oui, il a ouvert ses portes hier, date anniversaire de la naissance de l'acteur, à une quarantaine de kilomètres du musée de la gendarmerie et du cinéma à Saint-Tropez.
Marcel de Merlot, chef.
J'ai rien compris à recommencer.
Marcel de Merlot.
J'ai toujours rien compris.
Et moi, Maréchal de Fougas. Fougas.
Ça ne m'étonne pas. Alors, Maréchal de Lechy, chef, Truchot, 3.
Très honoré, chef.
Mais ça, je me le demande. La fille Nicole. Vous ne vous fatiguez pas, on va prendre les bagages et passer devant.
Mais même sans les images,
c'est pour le plaisir de l'entendre. Le nouveau musée Louis de Funès présente des centaines de documents personnels. Il y a des photos, des affiches, des accessoires de films, des costumes et même des dessins réalisés par le comédien. Pour également voir les premiers manuscrits de Rabbi Jacob ou encore le César d'honneur remporté en 1980 par l'acteur pour l'ensemble de sa carrière.
Et vous le disiez, remis par Jerry Lewis.
Et vous le disiez, voilà, le commissariat est confié à la Clémentine, petite fille de,
ouais, Clémentine Desrodilles qui avait fait l'expo, la sublime, entre autres, elle a fait la sublime expo Barbara à la Philharmonie et celle, là, plus récemment, Doineau et la musique. Et c'est une fille géniale.
Et Louis de Funès, c'est quand même aussi une idole, j'imagine.
Idole absolue.
Ouais, on est bien
absolue,
je pense qu'on partage tout ça.
Professeur même, un professeur.
Ouais. On continue ce journal avec un festival au nom étrange.
Le festival Chien à plumes qui se tient à partir de demain à Villeguisien-le-Lac, c'est en Haute-Marne. Au programme, un certain Ibrahim Malouf qui invite Aïdouti Orchestra samedi soir.
C'est un spectacle sur scène, vraiment. Allez voir parce que c'est exceptionnel.
Dimanche à 19h45, vous pourrez voir sur scène Tiken Jah Fakoly.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Et aussi Grand Corps Malade qui sera un peu plus tôt sur la scène à 17h45.
Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction.
Jolie programmation, hein.
Très belle programmation. C'est le 23e festival Chien à plumes qui se tient jusqu'à dimanche à Villeguisien-le-Lac, c'est en Haute-Marne.
Et puis on va terminer ce journal de la culture par les nuits du château de la Moutte.
Oui, c'est la 44e édition de ce festival. J'étais sûre que vous alliez rire.
J'en étais sûre. J'ai lu le.
Mais parce qu'on a senti une. Quand même une sorte de.
C'est pas vrai.
Non, mais on dirait un truc d'Alain Chabat, quoi.
Oui, la Moutte.
Le château de la Moutte.
J'ai senti qu'en plus vous baissiez en conviction au fur et à mesure de la. Phrase.
C'est la 44e édition de ce festival qui se déroulera cette année du 3 au 14 août. C'est sur la plage des Canviers dans la cour du château de la Moutte à Saint-Tropez. Au programme, 7 concerts au clair de lune dans ce lieu mythique chargé d'histoire au cœur d'une palmeraie centenaire. Avec notamment lundi prochain une soirée de jazz magique sur la plage avec le prodige du piano Thomas Enko qui est au téléphone avec nous.
Ah,
mais oui.
Mais oui. Bonjour Thomas Enko.
Bonjour Thomas.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors vous êtes pianiste, compositeur de jazz et de musique classique. Vous donnez chaque année plus de 100 concerts partout dans le monde. Alors comment est-ce que vous abordez celui-là, celui de lundi prochain ?
Ça va être la première fois que je joue sur la plage.
Ah oui.
Donc, voilà, je suis un grand passionné de mer et de sport maritime. Alors,
le kitesurf voilà,
De kitesurf
sur l'île de Ré, non ?
Exactement.
Vous connaissez son frère?
Bah oui, je connais son frère. Bah, je connais toute la famille. Enfin, je connais pas toute la famille, mais c'est des gens géniaux, les Enko. C'est la famille Casadesus.
Parce qu'en fait, Vincent a beaucoup été narrateur et comédien avec le big band de mon frère.
Ouais.
Et je suis allé les voir en concert, c'était assez génial. Donc, mais on ne se connaît pas directement.
Non, c'est vrai.
Mais vous avez raison, kitesurf, planche à voile, etc. Donc c'est vrai que si je pouvais arriver comme ça sur la scène, ce serait assez génial.
Faites-le. Et alors, il faut installer le piano avant, parce que si vous arrivez en kitesurf, en tenant le piano, ça va être un peu compliqué.
C'est un peu lourd, ouais, à moins qu'on mette des bouts d'ingonflables dessus.
C'est ça.
On a encore quelques jours pour trouver une solution.
Et qu'est-ce que ça change en termes de sonorité, justement? Est-ce que vous allez faire des balances un peu plus particulières? Est-ce que vous êtes déjà sur place, d'ailleurs?
Oui. Non, je ne suis pas sur place, je suis effectivement à l'île de Ré, comme disait Vincent.
Quelle chance.
Mais j'y vais dans quelques jours, à Saint-Tropez, c'est pas mal non plus. En termes de sonorisation, je crois qu'ils ont un système assez unique que je ne connais pas, mais qui va permettre de rendre, surtout pour tout le public de la plage, parce que le public sera installé sur la plage, et moi je serai sur un ponton qui s'avance dans la mer, apparemment.
Il faut que
je fasse attention de ne pas trop bouger pour ne pas tomber dans l'eau. Mais apparemment, la sonorisation est très subtile pour donner vraiment à chaque auditeur dans le public le son très naturel de l'instrument qui est quand même le meilleur, c'est quand on a la tête dedans.
Ah, c'est incroyable en termes de préparation. Vous faites autant du classique que du jazz. Est-ce que c'est différent de préparer un concert de jazz qu'on imagine un peu plus libre?
Oui, c'est très très différent. Un concert de jazz, alors particulièrement en solo. Là, je serai en première partie en piano solo. Deuxième partie, j'aurai une invitée de marque en la personne de
Cyril Aimé.
Cyril Aimé, exactement. Mais un concert de jazz, en tout cas pour une partie en solo, voilà, c'est plus une préparation qui est quotidienne, toute l'année, tout le temps. Et puis, au moment du concert, sur le moment, je décide ce que je vais jouer. Je peux changer de direction à tout moment. Voilà. Alors qu'un concert classique, il y a vraiment un programme imposé. Là, il y a quelques jours, je jouais plusieurs concertos avec orchestre symphonique et c'était des programmes que j'avais préparés pendant des semaines, voire des mois avant. Et là, en revanche, le chemin est tracé par la partition et c'est l'interprétation qui va essayer d'être la plus libre possible. Mais les notes en elles-mêmes sont écrites et on est censé les connaître et pas trop les changer. Donc c'est assez opposé comme préparation. En
fait. La chanteuse de jazz dont vous parlez, new-yorkaise Cyril Aimé, le New York Times dit d'elle qu'elle est l'étoile montante du jazz d'aujourd'hui. Vous validez ? Oui, c'est vrai.
Je valide totalement, oui. En fait, j'ai de la chance parce que le festival des nuits du Château de la Moutte. Alors moi aussi, ça fait quelques années que j'essaie de trouver des contrepétries dans ce genre. J'y ai déjà joué, mais j'ai toujours pas trouvé. Je crois que c'est au contraire très sérieux. Donc ils m'ont donné carte blanche, en fait. Ils m'ont proposé d'inviter qui je voulais. Et Cyril, donc c'est une chanteuse française qui ça fait 10 ans ou plus, peut-être même qu'elle est installée aux États-Unis. Avant, elle était à New York. Maintenant, elle est à la Nouvelle-Orléans. Et je l'ai rencontrée là-bas, en fait. J'ai rencontré à New York. Quand moi, j'habitais là-bas il y a quelques années et j'allais la voir dans ses concerts. Elle avait des résidences toutes les semaines dans le même club et puis plusieurs fois, j'allais. Alors comme je joue un peu de violon aussi, elle m'invitait à jouer avec mon violon lorsqu'il n'y avait pas de piano sur scène. Et puis on faisait un peu le bœuf ensemble et elle était assez prodigieuse déjà. Et l'année dernière, j'ai eu l'honneur qu'elle m'invite dans son dernier album qui est un hommage à Sondheim, Stephen Sondheim, qui s'appelle Moving On. Et des chansons magnifiques et j'ai joué sur trois chansons de l'album. Et c'était la première fois depuis quelques années qu'on se retrouvait dans un projet un peu officiel. Et voilà, donc là forcément j'ai eu envie de l'inviter, surtout dans ce contexte-là. Elle est rayonnante, elle est solaire et c'est une des rares chanteuses de jazz que je connaisse qui soit aussi musicienne en termes techniques aussi qu'un instrumentiste, qui permet d'aller vraiment dans toutes les directions, d'improviser à fond comme si elle jouait du saxophone.
Ça va être une très belle soirée. Vous savez quoi, Thomas Enko, à vous entendre, je me dis que vous devriez faire un duo avec Vincent Dedienne. Ça pourrait être à la fois artistiquement de qualité, mais aussi très drôle aussi, parce que je sens que vous avez à peu près le même humour. Donc ça pourrait être amusant. En tout cas, on pourra vous voir lundi. Hein, c'est dans les cadres des Nuits du Château de la Moutte qui ont lieu jusqu'au 14 août à Saint-Tropez. Thomas Enko, avec aussi au programme Danseurs de Flamenco. Lise,
oui, encore un concert de jazz 100% féminin avec la légendaire Rhoda Scott.
Rhoda Scott, incroyable. Je crois qu'elle a plus de 80 ans, ouais. Rhoda Scott. Merci beaucoup, Thomas Enko. On vous souhaite un très bel été.
Salut Thomas.
Vous aussi, salut Vincent.
Et bon kitesurf
aussi. Avant de partir vers la Corse, je vous propose une parenthèse musicale. Si je vous dis Elena Noguera, Vincent Dedienne, vous me dites quoi ?
Ma chérie, c'est ma chérie d'amour.
Ouais, et vous me dites je mens aussi, parce que vous êtes aussi chanteur, la preuve sur Europe 1.
Demande qui je suis.
Je te demande si tu me suis.
Je ne sais pas, je danse avec le temps qui va son l'embalancement.
Tu aimes le temps quand il se suspend, le souffle inattendu, le vent.
J'aime surtout qu'on se mente vraiment quand on se parle de sentiments. Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense à
ce trop, c'est agaçant. Tu es une image mouvante,
mais je peux être émouvante.
Je sais, tu danses comme le vent, et devant l'amour tu te rends.
À l'évidence et au tourment, moi le petit soldat, je me rends pourvu que toi, mon bel amant, tu me prennes par les sentiments. Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant. Dis-moi,
oui quoi,
m'aimes-tu vraiment?
Tu parles charmé, c'est évident, je t'aime.
Tu m'aimes?
Mais oui, vraiment, je t'aime inexorablement.
Quand tu dis des mots, j'y crois, pourtant, pour toi ce sont des roses, des vents, que tu offres en guise de serment, tu parles comme une valse à trois temps.
Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant.
Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant.
Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Oh, mais je pense,
mais tu penses trop, c'est agaçant.
Et oui, Elena Noguera et Vincent De Dienne. Vincent qui est aussi dans ce studio et avec qui nous poursuivons cette émission sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et il est 10h25 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club. On attend vos messages et vos questions jusqu'à 11h sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Notre invité du jour est le comédien Vincent De Dienne. Est-ce que Vincent, tout va bien jusqu'à présent?
Tout va bien. Ouais. Je bouffe tous les gâteaux que vous m'avez filés. J'ai les livres.
Ceux au chocolat sont pas mal. Hein.
Ouais.
Les chocolats sont bons. À l'évocation de la Corse, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit?
Oh, ben les couchers de soleil.
Ah oui.
Les couchers de soleil et la lumière rose qui tape dans les montagnes, sur les montagnes.
Ah ouais. Oui, je pensais que vous alliez me parler de la mer, c'est marrant. Vous parlez de la montagne.
Ben, oui. Non, mais la mer, mais tout. Enfin, tout. Les eucalyptus, le désert des Agriates,
la charcuterie.
La charcuterie, le fromage.
Et le fromage, c'est un fromage. Fan de fromage, Vincent
Et les galettes de châtaigne, enfin tout.
Ah, vous aimez tout. Lise, on part où ce matin exactement, en Corse du Nord?
On va en Corse du Nord, on va découvrir les tours génoises. Et on est en ligne avec Michel Tercet, ancien lieutenant-colonel de l'armée de terre, spécialiste et passionné des fortifications, qui nous avait déjà fait l'amitié d'intervenir dans le club de l'été l'an dernier. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel. Bonjour lieutenant-colonel.
Mais oui.
Oui.
Bonjour mon colonel.
Mais il est à la retraite. Et comme c'est déjà un habitué du club, je me permets de l'appeler Michel. Alors déjà pour commencer, que les choses soient claires, qu'est-ce qu'une tour génoise?
Alors, ce sont des tours construites essentiellement au XVIe siècle pour défendre les côtes et prévenir de l'arrivée des pirates barbaresques.
Et il y en a combien? Donc, parce que j'ai l'impression qu'il y en a côtières. Énormément.
Oui, il y en a beaucoup encore.
Alors, en Corse, il y en a eu 90 de construites.
Et il en reste combien, là, aujourd'hui? Vous avez une idée?
Alors, il doit en rester 2/3, si vous préférez.
Oui.
Sachant qu'une partie est en état triste, et une autre partie est à peu près complète, voire en parfait état, car restaurée, bien sûr.
Alors, si vous deviez nous faire une sélection, Michel, je sais que c'est difficile, mais vous nous emmenez voir laquelle, pour commencer?
Alors, si vous souhaitez que nous parlions des tours du Cap Corse...
Oui.
Bah je vous présenterai tout de suite celle de Santa Maria della Chapelle, qui est une des plus spectaculaires.
Parce qu'elle
fait partie. Voilà, exactement. C'est une tour qui a les pieds dans l'eau. Elle est loin de toute agglomération. Et elle a été coupée en deux par un bombardement anglais en 1793. Donc on voit une coupe carrément de la tour.
Et ce qui est
elle
très
est
étrange,
en deux dans le sens vertical.
Oui, ce qui est très gênant, c'est que c'est coupé en deux et pourtant, il y a toujours même au sommet, on a l'impression que ça continue de monter. C'est très étrange.
C'est très surprenant parce qu'effectivement, le bombardement quand même aurait pu la réduire complètement à l'état de gravats. Et finalement, seule la moitié de la tour est tombée.
Et j'imagine, Michel, que toutes ces tours génoises qui sont situées en Corse, c'est aussi des points de vue magnifiques sur la mer et sur la région.
Alors, vous avez deux types de tours et certaines tours qui sont au bord de la mer, pour généralement à proximité immédiate de villages ou pour défendre des mouillages. D'autres tours, par contre, surtout sur la côte ouest,
oui,
sont sur des points hauts, dans des endroits totalement isolés et servaient à détecter et pas à protéger. Celles qui étaient bien sûr dans les villages servaient à protéger.
Est-ce qu'on peut monter dessus?
Ça dépend lesquelles. Une partie des tours ayant été restaurées sont tout à fait accessibles, hein, entre autres celles qui l'ont été par le Conservatoire du Littoral. Ils ont refait l'escalier extérieur qui accédait au premier étage, il n'y a pas d'accès à partir du rez-de-chaussée, et on peut accéder sur la terrasse par un escalier intérieur. Aucun problème pour les tours restaurées.
Et il y en a aussi une qu'on aperçoit à partir du moment où on prend le bateau, même où vous arrivez en Corse,
vous voyez la tour de la Giraglia, je ne sais pas si je le prononce correctement.
C'est ça, c'est ça, la Giraglia.
Non, ça, c'est au
c'est un petit îlot qui est tout à fait au nord de, du Cap Corse.
Oh là. Mais il y a un phare.
Vous avez effectivement la tour qui, elle, est du XVIe siècle et le phare qui est du XIXe.
Oh là là, vous êtes un puits de connaissances, Michel.
Je suis un passionné.
Mais oui, et on est très heureux de vous avoir réentendu ce matin, comme l'an dernier d'ailleurs. Vous revenez quand vous voulez hein, dans le club de l'été. Hein. Vous êtes notre chouchou.
Si vous me sollicitez, je me ferai un plaisir.
Avec plaisir. Et vous avez été l'auteur de La Corse fortifiée, un chapitre justement sur ces tours viennoises. Merci beaucoup, Michel Tercé.
Merci
d'avoir été en direct avec nous. Toutes les infos sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Élise, vous nous postez tout ça sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier Pouls, vous avez choisi ce matin de vous intéresser au vin corse. Donc rendez-vous dans quelques minutes, toujours en direct sur Europe 1.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Vincent De Dienne, question à laquelle je pense que je vais répondre à votre place. Est-ce que vous êtes du genre gourmand?
Non.
Pas du tout.
Non, moi, non.
La boîte de biscuits a disparu. Ouais.
Non, moi, tout ce qui est bon.
Ouais, j'aime pas trop.
Ouais. Ouais, non. Et votre plaisir, tout ça. Non.
Et votre Madeleine de Proust?
Ma Madeleine de. Si je réponds vraiment.
Ah oui.
Madeleine de Proust, ce qui me rappelle mon enfance, c'est
sûr,
ça.
Bien sûr.
Bon, alors, la cervelle. De mouton.
Ah oui, quand même.
Je m'attendais pas à ça.
Ah ouais.
Mais pourquoi?
Mais qu'est-ce que j'aimais ça, ma mère. Elle en faisait de temps en temps, mais j'étais fou. Je fous de joie. La cervelle au beurre.
Oui.
Vous voyez ce que. Mais
non.
J'adore. Non?
Je vois pas ce que
meunière cuite.
Ouais, avec du riz.
Ah d'accord.
Ah, qu'est-ce que j'aimais ça. Mais pendant un moment, ça a été interdit, je crois. Après, dans mon enfance, on n'avait plus le droit à cause de Christophe Jacob, je crois.
Ah, d'accord.
Comme ça. Ah ben voilà.
Et est-ce que vous
êtes... écoutez, vous me posez la question.
Non, mais bien sûr, c'est juste, mais je m'y attendais pas.
J'ai un devoir d'honnêteté.
Voilà, est-ce que vous aimez bien le vin aussi?
Oui, absolument.
Tous
j'aime
les vins.
Bien le vin. J'aime pas trop le vin rouge, moi.
Oui.
Ouais, je sais pas pourquoi. J'aime pas le. Je passe un peu à côté du vin rouge, mais j'adore le vin blanc.
D'accord.
Et alors, j'adore les vins blancs de Bourgogne.
Oui. D'accord. Ben moi, je vais. Avant de vous proposer qu'on boive ensemble un petit peu de vin blanc de Bourgogne, et avec modération, je vous ramène en Corse à nouveau. Puisque quand on parle de la Corse, on peut évidemment ne pas parler des vins. Très, très grand vignoble. Et nous avons la chance d'avoir en ligne un des très grands vignerons de la Corse. On repart vers le Cap Corse et nous allons retrouver Antoine Arena. Bonjour Antoine Arena.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir d'entendre tant de bonnes choses.
Alors, quel temps ce matin sur le vignoble corse?
Il fait très beau, il fait très beau. Nous avons eu le privilège et la chance d'avoir eu un bel orage samedi et dimanche, alors que sur le continent, dans beaucoup de régions, malheureusement, la sécheresse sévit. Chez nous ici, grâce à la nature, on est assez privilégié.
Vous êtes où?
Les vignes sont magnifiques, ouais.
Vous êtes où en Corse?
Patrimoniaux.
Okay. Alors, l'une des grandes spécificités du vignoble corse, ce sont ses cépages. Et il faut dire que la Corse a la chance d'avoir conservé un certain nombre de ce qu'on appelle des cépages autochtones, donc des variétés de vignes qui sont propres à la Corse. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Antoine Arena? Quels sont ces fameux cépages?
Oui et non, Olivier. Puisque j'ai entendu le monsieur qui parlait des tours génoises. Mais vous savez, les Génois ne nous ont pas laissé que des tours encore. Ils nous ont laissé même des cépages. Et entre autres, notre Nieluccio, qui est le cépage emblématique de l'appellation patrimoine, vient de, vous savez, pendant 5 siècles, la Corse a été sous domination génoise. Et donc, ces cépages viennent du Chianti et de la Toscane. Nous avons le Vermentino qu'on appelle Malvasia en Haute-Corse. Malvasia, c'est un cépage qui vient d'origine crétoise. La Corse a toujours été un carrefour de culture et de civilisation. La Corse, je pense que ce peuple est beau parce qu'il y a un échange. Et il ne faudrait pas mettre les barbelés autour aujourd'hui. Il y a toujours un échange culturel, un échange de population, de peuple. Et c'est ça qui est beau. Et au niveau des cépages, nous avons eu la chance d'avoir eu ces cépages qui sont venus d'autres rivages de la Méditerranée. Nous avons un cépage qui est, paraît-il, parce que les empélographes nationaux, et je pense que nous avons les meilleurs empélographes au monde en France, le Bianco Gentile, on ne le retrouve nulle part ailleurs, ni en Italie, ni en Espagne, ni sur le continent français. Et donc, sinon, le reste, Nieluccio, c'est le frère jumeau du Sangiovese en Toscane, le Malvasia au Vermentino, c'est aussi le rôle qu'on retrouve en Provence.
Et puis le muscat, évidemment, quand on parle du Cap Corse.
Et le muscat petit grain, qui est un muscat petit grain qu'on trouve aussi sur le... sur le continent et partout où on produit des muscats en vanneaux naturels.
Alors l'une des spécificités aussi, c'est que les vins corses, ils sont très difficiles à trouver en dehors
de
la Corse.
C'est ce que j'allais vous demander.
Vous en produisez peu et vous les aimez tellement que vous les buvez.
Disons, c'est un peu vrai et c'est un peu faux. Je ne vais pas faire l'hypocrite, mais c'est vrai que nous avons un tout petit domaine, hein. Le vignoble corse, c'est pas des grosses productions. Vu c'est effectivement la fréquentation touristique, ça me fait penser un peu à nos amis vignerons de la Savoie. Vous savez, on consomme les vins, les vins de Savoie. On consommait les vins de Savoie pendant les sports d'hiver et on consommait les vins corses pendant l'été.
Pendant l'été, oui.
Voilà, je suis un de ceux qui a pensé que en fin de compte, il fallait continuer à penser aux vins corses au-delà de la vallée du Rhône, au-delà de Lyon et au-delà du mois de septembre. Donc c'est pour ça que dans les années 80, nous sommes montés sur Paris, nous avons commencé à faire connaître les vins corses. Vous savez, dans les années 80, quand nous montions à Paris, nous n'allions pas dans le 16e. Nous sommes montés dans le 20e à l'époque où c'était le... Nous avons deux chances inouïes, nous, les vignerons corses, c'est que nous avons connu le renouveau de la bistrologie à Paris. Et ils nous ont pris en sympathie. Et nous avons aussi, à qui il faut rendre hommage, et Olivier, tu en fais partie, la presse spécialisée, certaines qui naissaient, certaines qui étaient déjà présentes, qui nous ont pris en sympathie. Je me rappelle de Dupont, Gisol, enfin...
Ils vous prennent en sympathie parce que vos vins sont bons, hein, parce que c'est pas pour vous, vous savez. Hein.
Je ne sais pas.
C'est vrai. Il faut dire
qu'avant tout... Vous êtes très antipathique, on rappelle aux auditeurs.
Surtout, je pense, parce que nous étions sincères. Vous savez, nous sortions d'une crise. Les vins corses avaient très mauvaise réputation parce qu'il y a eu des scandales à l'époque d'élaboration de produits, j'allais dire de fabrication de produits, parce qu'à l'époque, c'était carrément fabriqué. Alors nous, quand nous sommes arrivés dans les années 80 comme vignerons, nous ne savions peut-être pas ce qu'il fallait faire, mais nous savions ce qu'il ne fallait pas faire.
Ouais.
Et donc, nous sommes à la recherche de nos vieux cépages, alors qu'on nous laissait presque sous-entendre qu'on n'avait pas de cépages autochtones. Nous avons créé en 82 un centre de recherche, et à partir de là, nous avons fait connaître notre viticulture, nos cépages. Il y a toujours, vous savez, la qualité... Je ne sais pas nager, parce que j'entendais tout à l'heure que vous aimez la mer. Moi, j'habite, je vois la mer de mes vignes, mais j'ai horreur de la mer, je ne sais pas nager.
Antoine, on adorerait passer toute la journée à discuter avec vous des vins corses. On adorerait le faire autour d'un verre, d'ailleurs. Bon, malheureusement, on va être obligé de vous quitter.
Ouais.
De vous quitter. Mais merci. On va venir vous voir.
Ouais, merci infiniment, hein, Antoine Arena, d'avoir été avec nous ce matin,
plaisir.
En direct.
Allez,
vraiment
merci
beaucoup.
Merci encore de mettre les vins corses à l'honneur.
C'est très gentil.
Antoine Arena, que vous mettez à l'honneur, c'est les vins corses.
Merci.
Et la qualité des vins corses.
Merci infiniment.
Voilà,
merci beaucoup.
Merci. Et à bientôt. Au revoir.
Bel été.
Au revoir.
Olivier, alors on ne va pas déboucher une bouteille de vin corse, hein, parce que vous avez voulu faire un petit cadeau
un petit
à Vincent
d'œil,
Deguenne.
Un gros clin d'œil.
Parce que vous m'avez dit, je savais qu'il était né à Mâcon, qu'il avait grandi dans le sud de la Bourgogne. Vous m'avez dit, si tu veux vraiment faire plaisir à Vincent Deguenne, il y a un vin qu'il adore par-dessus tout, c'est le Meursault.
Bon, j'avoue que c'est le mien aussi.
Donc, sans note de frais, je suis descendu dans ma cave.
Non, c'est pas vrai.
Mais oui.
Et donc, je vous ai apporté, nous allons déboucher dans un instant, avec notre ami Modération qui est dans notre studio, un morceau.
On a le droit à la radio de faire ça ?
Bien sûr.
Mais on est un petit peu filmé, mais on a dit avec modération, et tout va bien.
On a le petit bandeau qui défile.
On se retrouve dans un instant. Lise va nous emmener pendant ce temps-là balader en France. A tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec mes pioupiou Olivier Pouls, Élise Pressac. Et
nous sommes pioupiou maintenant.
Ouais, et nous sommes particulièrement.
Vous étiez des loustiques, tout d'ailleurs. Ouais.
J'aime bien.
On rajeunit.
Nous sommes tous très heureux de recevoir ce matin Vincent Deguenne. Est-ce que, alors là, vous ne pouvez pas me dire que ça ne va pas, Vincent.
On
ne peut pas être mieux reçu, là.
Moi, je vais avoir une réputation. J'ai les biscuits.
Tu me reçois à 10h40, c'est le pied.
Je me demande si ce n'est pas le.
C'est le meilleur moment.
La meilleure heure, me reçoit. Alors, donc, c'est quoi Meursault, Louis Jadot, tu nous en parles pas ?
Alors, le Meursault, évidemment, c'est ce très très beau vignoble Évidemment, les vins sont plutôt rares et pas vraiment donnés, donc c'est un beau cadeau qu'on vous fait quand même. Un morceau Narvo d'une très belle maison de négoce, millésime 2014, parce que j'aime bien les morceaux qui ont quelques années, vous voyez, qui ont déjà été patinés par le temps.
Mais un morceau de toute façon.
Voilà, non, et puis on a cette grande expression de la Bourgogne que j'aime, c'est-à-dire qui a du volume, ce sont des vins qui sont gras, mais qui restent très digestes, avec cette minéralité, cette finesse en bouche, franchement, on est pas mal.
Bon, alors pendant que vous dégustez, vous allez nous dire si vous aimez ce vin, Vincent de Dienne. Lise va nous proposer trois destinations à partir d'une même thématique. Alors attention, c'est spécial pour vous parce que ce matin, on part à la découverte, de trois piscines.
Oui.
Et on va commencer par aller se rafraîchir dans la Seine. Ça ne va vraiment pas vous, hein, Lise Pressac.
Non, plutôt sur la Seine, dans le 13e arrondissement de Paris, oui. Où est amarrée la péniche de la piscine Joséphine Baker, baptisée ainsi en hommage à la célèbre artiste décédée en 1975 dans l'arrondissement. Elle a été ouverte en 2006, elle est amarrée au port de la gare, on est au pied de la bibliothèque François Mitterrand. Et cette piscine vous permet donc de faire vos longueurs tout en admirant le cours de la Seine et vous trinquez. C'est une structure en verre et en acier.
Non, mais c'est incroyable, c'est dire
qu'on
n'en
a rien à foutre. Non, non.
Mais j'ai l'habitude, c'est tous les jours comme ça.
Tout va moi, bien. Je vous écoute.
Non, mais en plus, je la connais, la piscine Joséphine Baker.
Une piscine sur la Seine, c'est extraordinaire.
Il y a
quand
un bassin de 25 mètres, une pataugeoire, un solarium de 500 mètres carrés pour profiter du soleil parisien. Alors, l'ensemble du complexe en plus est entièrement accessible aux personnes handicapés. La piscine propose des fauteuils pour milieu humide et dispose d'un système de mise à l'eau exprès adapté. L'été, la piscine est ouverte en semaine jusqu'à 23h et de 9h à 20h le week-end. Alors les tarifs sont plus élevés que le reste de l'année l'été. L'entrée coûte 6,50€ en plein tarif, 3,20€ pour les moins de 26 ans et les plus de 65 ans qui habitent Paris.
Alors après la péniche, le paquebot, mais on parle toujours de piscine,
oui,
effectivement.
Eva, oui, je vous emmène à la piscine Roger Saint-Langros. On est à la Buissière, c'est dans le Pas-de-Calais. Une piscine entièrement en plein air dont l'architecture rappelle celle des grands paquebots transatlantiques d'avant-guerre. C'est vraiment une piscine art déco, la dernière de France d'ailleurs, encore ouverte à la baignade. Elle fut construite en 1936, année des premiers congés payés, afin de répondre aux besoins de loisirs justement des travailleurs de cette région minière. Elle porte d'ailleurs le nom de Roger Saint-Langros, qui était député du Nord et maire de Lille, et qui devint en juin 36 ministre de l'Intérieur du gouvernement Blum. Elle est ouverte de mai à octobre. La piscine est composée d'une pataugeoire, il y a deux bassins, deux solariums, quatre plongeoires. L'eau est chauffée entre 29 et 32 degrés. J'ai pensé à Olivier.
Ah, c'est pour Olivier. Parfait, ça.
L'entrée coûte 2,20€ pour les résidents de l'agglomération, c'est 3,40€ pour les non-résidents.
Et puis enfin, on va se baigner dans une piscine, oui. Mais à la mer.
Oui, rendez-vous avec votre serviette Eva sur la plage de l'Écluse à Dinard, c'est en Ille-et-Vilaine, en face de Saint-Malo.
C'est trop loin de chez moi ça.
Oh, mais non. C'est ici que se trouve la piscine de la Porte d'Emeraude, construite en 1928. Alors elle se remplit à marée haute et elle conserve l'eau une fois
c'est
la
génial.
Marée descendante grâce à une digue qui la retient. Elle est sublime en plus, vous pourrez donc profiter des bienfaits de l'eau de mer, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, peu importe les horaires de la marée, et tout ça gratuitement dans un cadre magnifique avec la pointe du Moulinet et l'estuaire de la Rance.
Ah, j'ai très envie de tester, Vincent de Dienne.
C'était fou cette chronique.
Oui. Attendez, je ne vais pas terminer. Parce que si vous faites un bobo à la piscine,
oui.
Alors, Lise, elle a une application.
Je ne sais pas pourquoi je vous imagine hypochondriaque. Je me trompe peut-être complètement. Mais
Non, je le suis.
Ouais, voilà. Je sais pas. Ouais. Donc, du coup, je me suis
dit. C'est pour ça que je ne vais pas dans les piscines.
Voilà. Alors là, vous allez être content.
Il y a la Saint-Langros.
Je vous ai trouvé une appli pour trouver une pharmacie où vous soyez n'importe où. Ah oui, carrément, le générique d'urgence. Donc, si vous êtes... L'application s'appelle Doctipharma. Elle répertorie les établissements de garde. Vous pouvez même photographier votre ordonnance, l'envoyer à une pharmacie aller chercher vos médicaments. Elle vous donne aussi les horaires d'ouverture et de fermeture, le numéro de téléphone et même l'itinéraire détaillé pour vous rendre à la pharmacie la plus proche.
Ça, c'est bien. Bravo, Doctipharma.
Et on voit, c'est pratique.
C'est très pratique. Ouais.
Et je pense que vous allez la télécharger tout de suite sur votre portable.
Tout de suite.
Est-ce que vous êtes addict à votre portable?
Ah oui, hélas. Ouais.
Ouais. Vous n'arrivez pas à...
Je suis débile. J'ai une maladie. Maladie d'Instagram. Et de...
On est nombreux à l'avoir, celle-ci.
Ouais, mais il faut qu'on arrête.
Oui.
Il faut vraiment qu'on arrête. On devrait décider tous ensemble d'arrêter.
Mais même en vacances.
Alors, en vacances, j'essaie. Mais là, j'espère, j'en suis là. J'espère réussir à ne pas prendre mon téléphone.
Ah, ne pas prendre du tout votre téléphone.
Non. Non, parce que le problème, c'est que si je l'ai, je regarde, j'ai quoi, Instagram, je suis capable même au fin fond de la Bourgogne de regarder s'il n'y a pas des trucs, au fin fond de la Saône-et-Loire, je veux dire, dans mon village, chez mes parents, de regarder s'il n'y a pas une nouveauté chez Deliveroo, ou tout ça, des trucs. Les tristes, les jeux à la con. Non. Et surtout, je lis moins, j'ai une perte de, je sais pas combien de pourcents de lecture en moins.
Est-ce que vous vous souvenez du dernier livre que vous avez lu?
Qu'est-ce que j'ai lu Thomas Reverdy.
Oui.
Le dernier livre que j'ai lu, j'avais jamais lu de Houellebecq, donc j'ai lu le dernier Houellebecq. Bon, j'ai trouvé ça quand même vraiment génial. Et Thomas Reverdy, comment ça s'appelle, il a une ville, il y a le mot ville dedans.
On va le retrouver. On va, ouais, on va le trouver.
Superbe.
On a quelques secondes pour faire ça. Toutes les références des contenus qu'on a évoqués depuis ce matin, vous les retrouvez sur le site europe1.fr. On a reçu plein de cartes postales. Regardez, c'est nos auditeurs qui nous ont envoyé tout ça.
Ah, trop mignon. D'où, alors ?
Une du Canada, regardez. Oh. Ah, c'est, ouais, Olivier qui nous a envoyé ça et qui continue à nous écouter en podcast et qui adore nos rires communicatifs, nous dit-il. On en a reçu une avec la recette du tourteau au fromage de Cédric. C'est pour vous, Olivier Pouls. C'est un coucou du Poitou. On en a reçu encore une. Non, mais regardez ça, si c'est génial.
D'une
de
piscine
Angers
à Angoulême.
Non, ça, c'est Sandrine. Sandrine à Angers, 60e foire. J'arrive pas trop à vous lire. Vive, oui, les... Je sais pas. Vive les escargots. Elle a dessiné un petit escargot.
Vive les cagouilles.
Et puis une magnifique aussi carte postale de la part d'Isabelle. Regardez ça, si c'est joli.
Paysage,
merci,
de montagne.
C'est génial.
Un paysage de montagne absolument génial dans les Pyrénées. C'est le lac des Gloriettes. Merci beaucoup pour toutes vos cartes. Vous pouvez continuer à nous en envoyer parce que vous savez que l'émission se poursuit jusqu'au 23 août.
Moi, je garde le tourteau, voilà, fromager.
Vincent
de Dienne.
Alors,
ouais,
juste le livre de Thomas Reverdy, Il était une ville.
Il était une ville.
Publié, ouais, en 2015.
Voilà. Vous avez vu ça. Voilà, efficacité. Vincent de Dienne, dans quelques secondes.
Exactement.
Ce sera la dernière séquence de cette émission avec Olivier Pouls. On va marquer une pause musicale avec les Red Hot Chili Peppers. Avant de parler de la nourriture en même temps, c'est logique. Le groupe de Californie chante Under the Bridge sur Europe 1.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want.
Les Red Hot Chili Peppers sur Europe 1, avant que je ne vous donne ma recette de poivron à l'huile, enfin si on a le temps, et avouez que c'est pas mal. A tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend.
Avec le Club de l'été sur Europe 1.
Ce numéro du Club de l'été s'apprête à refermer ses portes. Mais oui, les amis, normalement, vous êtes en train... Vous devriez... Voilà, merci.
Mais mon micro n'était pas allumé, c'est pour ça.
Merci beaucoup. Voilà. Vincent de Dienne, vous êtes triste de nous quitter.
Mais je suis très triste, c'est passé très vite, mais c'était un régal.
Bon, eh bien, la parole d'abord est à Olivier Pouls.
Pas
parce que Olivier, voilà, il nous fait chaque jour un vrai faux des fourneaux. C'est-à-dire qu'on lui donne une phrase et il nous dit si c'est vrai ou si c'est faux. Et la phrase du jour, les escargots de Bourgogne sont une appellation d'origine protégée. Est-ce que c'est vrai ?
Moi, je dis que c'est vrai.
Alors, vous dites que c'est vrai. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est faux. Enfin, en tout cas, l'appellation de escargot de Bourgogne, ça me paraît un peu
Moi,
improbable.
Je pense que c'est vrai.
Protéger, ça veut dire quoi? Ça veut
dire c'est-à-dire que c'est lié à un terroir.
Bah oui, c'est vrai.
Ouais. Et ben, c'est faux.
C'est vrai.
C'est faux. Mais alors, je vais vous raconter une histoire assez extraordinaire. Pourquoi on appelle ces escargots les escargots de Bourgogne? Ça remonte à 1814, en réalité. Un repas entre le tsar Alexandre et Talleyrand. Repas orchestré par le plus grand chef de l'époque, qui s'appelle Antonin Carême et qui prépare des escargots à la bourguignonne. Et il faut dire qu'à l'époque, la région de Bourgogne est très, 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 très riche en escargots, ces gastéropodes qu'on va récolter à la main et qu'on prépare et qui sont un mets succulent. Et en rentrant en Russie, le tsar est tellement content qu'il dit « j'ai mangé des escargots de Bourgogne ». Il exige que son cuisinier refasse les mêmes escargots. Il a à peu près réussi à choper la recette. Et c'est lui qui va donner le nom, cette appellation d'escargot de Bourgogne. En fait, un escargot qui, son nom scientifique, s'appelle l'Helix pomatia, et qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne trouve plus beaucoup en Bourgogne. Et la grande majorité des escargots qu'on consomme et qu'on appelle escargots de Bourgogne viennent malheureusement des pays de l'Est. Exactement. Ah ouais. Alors, il subsiste encore quelques élevages en Bourgogne. D'ailleurs, si vous y allez, renseignez-vous, vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, il y a vraiment un savoir-faire.
Moi, j'en avais mais fait malheureusement, des escargots.
L'appellation n'est pas protégée. Et le nom escargot de Bourgogne est devenu un nom un peu générique, comme le champignon de Paris. Le champignon de Paris n'est évidemment plus produit à Paris.
À Strasbourg-Saint-Denis, effectivement. Voilà. Mais oui, j'en ai fait une fois, moi, des escargots, vraiment avec ma grand-mère et ma mère, mais c'était épouvantable. Parce qu'il faut les faire baver, dégorger pendant des heures et des heures avec du sel et ça, tu les fais baver, mais ça dure des heures et des heures, c'était horrible.
Et alors, Eva qui va peut-être nous raconter comment elle a découvert en fait que l'escargot de Bourgogne, on mangeait vraiment ce qu'il y avait dans la coquille.
Quand
j'étais petite, j'ai goûté des escargots de Bourgogne, j'ai trouvé ça absolument délicieux, mais je n'avais pas compris que c'était vraiment l'escargot qu'on mangeait. Je pensais qu'on se servait de la coquille pour une décoration, voilà, et que c'était une petite farce.
Quand elle a compris qu'en fait,
il y a pas mal de gens qui pensent ça.
J'en ai plus jamais mangé.
On est d'accord qu'on en mange juste pour la crème. On en mange juste pour la crème à l'ail avec.
Pour
on est d'accord.
Beurre, persil.
Bon, alors, c'est pas génial pour des tapas, les escargots de Bourgogne. Non, parce qu'en fait, on fait toute une semaine tapas avec
la
une
saison,
recette
c'est pas
d'olivier.
Ce qu'on en
voilà. Et vous aviez une petite recette de tapas à nous donner avec de la mozzarella. Alors, attention, chanson que je n'assume absolument pas.
On dit que mozzarella est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, mozzarella.
Quoi?
Je suis désolée.
Mais c'est quoi?
Je sais pas. J'ai trouvé ça.
Ça va pas la tête.
Je sais bien. Allez-y, je vous donne une minute pour faire votre
recette.
C'est
votre dernière mission là avant
de partir? Non, l'avant-dernière.
Ah, j'ai peur que vous restiez là-dessus.
Non.
Des petites croquettes de mozzarella, ça vous irait?
Oui.
Bon,
moi non, mais allez-y.
Vous achetez des petites boules de mozzarella, ça se trouve assez facilement maintenant chez le fromager, on est dans la saison en plus. Di Bufala de préférence, si vous les trouvez. Vous allez les mettre au congélateur pendant un petit temps pour qu'elles durcissent bien. Et ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. C'est-à-dire que vous allez les passer alternativement. D'abord, on les roule dans la farine, on les passe dans un petit peu d'œuf qu'on a battu. Mmh. Et ensuite, dans de la chapelure. Alors, chapelure, on l'achète ou alors on la fait soi-même avec du pain, des biscottes. Et puis, vous allez frire tout simplement vos boules de mozzarella. L'intérêt, c'est que la panure, elle va protéger, elle va faire une petite coque. Et avec la chaleur, la mozzarella à l'intérieur, elle va fondre. Mmh. Donc, qu'est-ce qui va se passer au moment où vous allez poser votre couteau dessus? Et puis, la mozzarella
va se mettre.
Ce qu'on
appelle, je dirais, dans le milieu, crousti fondant.
Voilà, exactement.
Crousti chaud.
Alors, en fait, le mieux, c'est de les mettre, évidemment, tout de suite, directement et en entier dans la bouche, parce que sinon, on a parfois quelques petites surprises. Mais c'est délicieux, c'est très facile à faire. Et moi, j'adore ça.
Une petite tapas comme ça, en deux secondes, c'est fait.
Est-ce
Merci
qu'on a droit
beaucoup,
à votre recette
ça.
Très rapide de, parce qu'on n'en a pas parlé
oui,
hier.
Oui, les poivrons, vous les mettez simplement au grill de votre four. Je les ai laissés 45 minutes environ pour que en fait, la peau cloque et que ça soit facile à enlever parce que les poivrons à l'huile, il faut absolument enlever de la peau et toute la peau. Vous les coupez en lanières que vous mettez dans de l'huile d'olive. Moi, j'ai mis un peu d'ail pour certains. Salé, poivré, vous mettez ça au frais et voilà, et c'est parfait. Vous avez vu ça? En deux secondes. Voilà, merci beaucoup.
Je suis sûr que vous cuisinez très très bien.
Non, faut pas dire ça, mais je progresse grâce à Olivier Pouls. Merci beaucoup les amis. Vincent Dodienne, merci
Eva, merci
d'avoir
beaucoup.
Pris le temps de passer par ce studio entre deux jours de tournage. Vous serez à l'affiche de deux films dans les prochaines semaines et on a hâte de les découvrir. Ça s'appelle L'étreinte avec Emmanuel Béart et Terrible jungle avec notamment Catherine Deneuve. Je suis certaine que votre agenda est plein à craquer dans les mois à venir. On espère quand même que vous aurez la chance, enfin la possibilité surtout de revenir nous voir.
La chance de revenir nous voir.
Oui, la chance. C'est vous qui aurez la chance de vous réentendre vite sur Europe 1. Vous savez,
j'espère
que la porte
venir,
du studio
je vous aime
est grande ouverte. Hein, voilà. Merci infiniment. Lise Pressac, Olivier Pousse, on se retrouve demain, oui. Même lieu, même heure. Ce sera notre dernière émission ensemble. Voilà, on va essayer
je
de.
Je suis déjà
prêt. Voilà, ça m'a foutu le cafard.
Je vais faire un truc à manger ce soir pour vous demain.
Ah bah c'est parfait. Voilà, alors on vous réserve un tas de surprises et nous serons avec l'animateur Christophe Beaugrand. Je vous laisse en compagnie d'Anne Romanoff en vous souhaitant une très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain. Et surtout, ne manquez jamais tout ce que vous pouvez voir avec Vincent Denienne. Allez-y.